Arnel Morissette, faut que tu m'expliques. Moi, là, Marc Roussin sort hier, dit « J'ai un lien Zoom, c'est enregistré, j'ai envoyé ça au DGE. C'est 75 minutes de conversation. Je parle à peu près pas. C'est le représentant de Leadership Québec qui parle puis qui dit « La chance, tasse-toi, je vais te donner un poste à l'exécutif. » Et là, sa maman dit un matin « Ah, voyez, sortez-les l'intégrale, vous allez être obligé de vous retirer. » Qu'est-ce qui se passe là, dans cette saga-là, Farnel Morissette?
Ben, première chose, écoute, je te dois des excuses, Jeff. Parce que je me souviens, là, j'étais assis ici la semaine passée, puis tu m'as demandé « Y a-tu des enjeux légaux qu'on devrait comprendre, savoir? » Puis je t'ai dit non. Un peu de la même façon que si tu me demandes « Y a-tu des enjeux légaux à prendre mon char et aller à Montréal? » Je te dirais non. Mais là-dedans, on s'attend que je présume que tu vas pas conduire à 220 avec une bouteille de scotch dans le nez. Là.
Ah ouais?
Il y a quand même...
On n'a pas le droit de faire ça.
Non, on n'a pas. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Je présumais que, je veux dire, on parle de politiciens d'expérience, de gens au moins qui se présument.
Aguerris, des gens qui connaissent la politique et surtout les éléments de base.
Oui, alors je veux dire, personne ne s'attend à ce que tout le monde ait mémorisé la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, mais ça, c'est un principe quand même assez important. Tu peux pas promettre des avantages économiques, des emplois aux gens pour qu'ils se retirent. Puis là, j'ai pris le soin de sortir l'article exact, parce que je l'ai pas mémorisé, mais je l'ai devant moi.
Ah oui, vas-y.
Parce que ça va être un enjeu dans les prochains jours, on peut s'imaginer. C'est l'article 590 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. « Commet une infraction quiconque par lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne » obtient ou tente d'obtenir qu'une personne pose sa candidature à un poste de membre du conseil, s'abstienne de le faire ou retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant quelconque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces. Alors, on va voir si ça sort dans les prochains jours. Tout le monde est capable d'appliquer ce règlement-là par sa propre morale. Évidemment, c'est pas à monsieur, madame, tout le monde de faire l'interprétation finale. Ça va appartenir à un juge. Mais on est tous capables, en bon citoyen, de lire, de comprendre la loi et de décider par nous-mêmes si cette espèce d'échange-là un jour sort, si c'est quelque chose qui est, selon nous, une infraction ou pas.
T'as entièrement raison. Et je vous fais écouter Marc Roussin sur Radio-Canada mardi en fin de journée. Et Lambert Drainville, je cède la parole après. On écoute Marc Roussin.
Alors nous, ce qui est important, c'était de mettre toutes les options.
Et on écoute Stéphane Lachance sur nos ondes le lendemain matin.
On est initié.
Pour conclure, on écoute François-David Bernier, avocat sur nos ondes mercredi. Il en fait.
C'est illégal.
Moi, j'écoute ça. Je suis pas un avocat, je suis pas un juriste, mais Lambert Drainville, dis-moi donc, quand là... Je dis à sa maman, ouais, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser pour sacrer ton camp? Comme Marc Roussin l'a dit sur les ondes de Radio-Canada, comme Stéphane Lachance l'a dit sur les ondes de Boulevard 102.1, m'a semble qu'on tombe pas mal dans l'illégalité, comme notre avocat, Maître François-David Bernier, nous l'a dit, comme Farnel vient de nous le rapporter.
Hey Jeff, on s'entend-tu qu'on est dans les fleurs du tapis présentement? Hey, moi, je suis un gars de Québec, là. On s'entend-tu que... On convient qu'on est dans une zone de gris, une zone de flou. Là, j'ai l'impression d'assister à, tu sais, deux enfants quand t'en as un qui fait un mauvais coup, puis là, la mère, elle s'en rend compte, puis elle dit non, c'est pas la faute à lui, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute à lui. Non, c'est la faute à lui.
C'est pire ce que l'autre a fait.
Comment?
C'est pire ce que lui a fait que moi, ce que j'ai fait.
La vérité, là, c'est que de ce qu'on a comme information, les deux sont dans le tort, visiblement. Les deux ont une part de responsabilité. Moi, je pense que, clairement, ils ont les deux essayé de jouer au fin finaux. Sa maman savait très bien ce qu'il faisait en acceptant que son équipe rencontre l'équipe de M. Lachance. M. Lachance savait clairement ce qu'il faisait parce qu'ils ont enregistré la rencontre. Fait que les deux se sont dit, haha, on va faire une manigance puis on va essayer de les squeezer par après parce qu'il n'y en a aucun des deux qui a l'intention de se retirer puis on va espérer avoir le dessus sur l'autre avec ça. Mais qu'est-ce que ça donne là, comme situation présentement? Ça donne qu'encore une fois, depuis vendredi dernier, puis dans le cas de sa maman, ben, depuis le début de sa campagne, on parle de tout, sauf de qu'est-ce qu'il a proposé à la ville, sauf de comment est-ce qu'il va régler les problèmes, sauf de comment leurs plateformes sont meilleures que celles de Bruno Marchand.
Et déjà, c'était compliqué, déjà, c'était complexe. Avant les petits réfifis, avant les petites crisettes, j'appelle ça des crisettes, honnêtement, là, ça semble être dans une cour d'école ou de garderie, c'était déjà nébuleux.
Oui, puis, tu sais, M. Marchand doit-tu être mort de rire, hein? Il est là, lui, puis il fait sa campagne, puis pit-pit, ça va, puis il regarde les deux autres se tirer l'un et l'autre vers le bas.
On lui a posé la question hier, il était en studio, on lui a dit littéralement, est-ce que vous êtes mort de rire? Puis sa réponse semblait un petit peu détachée en disant, ben, c'est leurs affaires. Tu sais, pour lui, c'était même pas drôle. même si c'est un avantage personnel.
C'est un triste spectacle, là. C'est du théâtre d'été, là. Tu sais, puis la campagne achève bientôt, puis on est encore en train de parler de ça ce matin. Pour les gens de Québec et surtout pour les partisans du parti Stéphane Lachance, de Respect citoyen puis de Leadership Québec, qui sont contre le tramway, ils vont rester chez eux. Ils vont rester chez eux parce qu'ils vont se dire, regarde, moi, c'est pas vrai que je vais voter pour Bruno Marchand, mais en même temps, Dieu sait que s'il y a une affaire qui ressort des derniers jours, des dernières semaines, c'est qu'il n'y a aucun de ces deux candidats-là qui a le leadership, qui a le cran, puis qui a le sérieux pour diriger une ville comme la ville de Québec. Alors, ben honnêtement, comme je disais, on est dans les fleurs du tapis au niveau. C'est, la question, c'est même plus, c'est-tu légal, c'est-tu pas légal? On a un cas d'espèce de y a un mois avec la mairesse Julie Dufour. Les deux savaient très bien à quoi qu'ils s'embarquaient. Puis là, ils sont pris dans des dédales légaux qui passent 15 pieds par-dessus la tête du citoyen de Québec moyen. Et c'est franchement triste.
Ah oui, je partage ton opinion à 100% Lambert Drainville. 418-971-1021 depuis hier qu'on le fait. Et les gens, justement, nous disent « Hey, écoute, tant qu'à ça, m'a resté chez nous. J'irai pas voter. » Ou il y en a même qui ont dit « Ben, tant qu'à ça, m'a allé voter Marchand. Au moins, il fait une campagne politique propre. » Farnell Morissette, en pense quoi pour conclure?
Ben, moi, j'espère que tout le monde va quand même aller voter. Mais je comprends les gens qui ont peut-être qui émettent des doutes parce que, je veux dire, un des résultats possibles, une des conclusions possibles de tout ça légalement, c'est potentiellement d'invalider l'élection. Advenant, là, un scénario qui semble peu probable, mais mettons que oui, il y a de quoi apporter plainte. Après enquête, il y a une décision du juge. La loi électorale permet au tribunal de dire, bon, ben, à cause de tout ça, on n'est pas certain que le résultat des élections est bon, on repart l'élection. Ou on pourrait invalider la candidature de quelqu'un, potentiellement même qui a été élu. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'électeurs qui veulent dire, hey, j'aimerais vraiment avoir de la certitude, même si mon vote va compter avant que j'aille à l'urne.
J'ai comme une déception, puis il y a quelque chose de très fort qui commence à naître en moi, parce que j'ai toujours eu une grande fierté envers la ville de Québec, envers comment on faisait les choses. Je nous voyais un peu comme des Gaulois dans certaines affaires.
Excellent,
plein de sphères, même la communication. Puis on se défendait dans l'adversité. Là, j'ai mal à ma politique, mais d'un mal que j'ai jamais eu, parce que je trouve qu'on a des candidats qui se valent. Pour beaucoup, ils ont une pertinence. Pour beaucoup, ils ont un pedigree, un CV qui se valent. Puis on arrive dans une arène qui est gênante. Je suis gênée actuellement de ce qui se passe à la ville de Québec, puis ça depuis au moins un an avec tout ce qu'on voyait dans les corridors du côté de la mairie. Souvent, on dit, est-ce qu'on a... Ben, on a la politique qu'on mérite. Là, je commence à me poser des questions sur ce situation-là.
Moi, je sens qu'on mérite mieux que ça. On paraît pas bien à travers le Québec présentement.
Ouais. Non, hey, moi, c'est la capitale nationale. Vous savez comment je suis fier de ma ville. Et là, je suis vraiment pas fier de la façon que ces élections-là se passent. Je serais vraiment très déçu si une personne qui est élue comme maire se fait, après 2 ans, retirer de la mairie parce que finalement, il a fait des choses illégales. On aurait l'air de la pire ville au Québec, comme Laval a été à l'époque. Ça me tente pas d'être le Laval des années 2025. D'ailleurs, Nadine qui écrit « Les élections, c'est pire que la maternelle, c'est capoté. Sa maman et Stéphane Lachance devraient se retirer par respect pour les Québécois et Québécoises. » Manon qui écrit « Écoutez, les deux ne méritent pas mon vote au final. Qu'est-ce que je vais faire? »
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es rendu là?
Ben c'est ça, Kim qui écrit « Arc, quelle campagne politique de chamaillage inutile, élection municipale, et là, c'est les termes de Kim, de marde, mais c'est vrai, c'est carrément
ces
ça.
Ces politiciens-là, je trouve qu'ils n'ont aucun respect pour ce qu'ils devraient nous présenter, parce qu'on est dans une ère actuellement où on cherche crédibilité, on cherche transparence, on cherche honnêteté de la part de nos politiciens. Le genre de superficiel puis de surface qu'on a connu pendant plusieurs années avec des scandales, ça commence à émerger, puis ça se dit, wow, là, on s'est fait affaire-wapper, là, arrêtez de vous excuser, on n'y croit plus. Donc, si vous voulez agir, agissez en amont, en ayant réfléchi à vos actions, à vos propositions puis à vos projets. On ne croira pas tant que ça au genre de chemin de Compostelle là, que vous allez nous faire par après. On le clame, les électeurs le clament, puis c'est tout de même ce qu'on reçoit.
Ouais.
Elle est où la capacité d'avoir du respect de la part de nos politiciens ici à Québec, envers même s'ils n'en ont pas pour les citoyens? La politique.
Non, en effet, t'as entièrement raison. C'est très, 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 très décevant ce qui se passe à l'heure actuelle. Les gars, on parle d'un autre sujet qui fait beaucoup jaser. Puis le gars, Farnell, comme j'ai une poubelle.
C'est du recyclage, je veux préciser, parce qu'on est écologique. Mais
on a pris la formule REN du côté de Jean Boulay, puis on a dit « Quand aux poubelles! » On en fait plus! C'est fini les cotisations syndicales où je vais permettre à Magali Picard d'aller à Dubaï. C'est fini les whisky à 50 pièces.
Je pense que ça vaut la peine avant qu'on commence de juste expliquer pour les gens qui connaissent pas c'est quoi la Formule Rand. Vas-y. Parce que je veux dire, la Formule Rand, ça s'appelle la Formule Rand parce que ça a été développé par le juge Rand en 1945-1946. Après des longues disputes syndicales, des lockouts qui ont duré très longtemps dans le monde de l'automobile en Ontario, et c'est l'espèce de compromis qui tient depuis 80 ans maintenant qui est que les travailleurs sont libres d'être affiliés ou non à leur syndicat. Alors, vous avez le droit de vous désaffilier de votre syndicat si vous voulez, au titre individuel, mais vous devez quand même payer vos cotisations au syndicat parce que le syndicat vous représente au niveau collectif. Mm-hmm. Alors, on respecte le droit de s'affilier, le droit d'association ou non, mais en reconnaissance de la nature collective du travail des syndicats, les cotisations sont quand même obligatoires. Là, il faut dire qu'il y a eu une petite brèche là-dessus sous le gouvernement Harper au niveau fédéral, où on a permis aux gens désaffiliés de décider de remettre l'équivalent de leur cotisation à des œuvres charitables. Alors, ça va pas au syndicat, mais ça reste que tu peux pas les garder toi-même. Alors, ça règle un peu le problème du, en anglais, le freeloader problem, une notion économique de dire c'est à l'avantage de chaque personne individuelle de pas payer ses cotisations, mais c'est à l'avantage de tout le monde collectivement de recevoir les services d'un syndicat. C'est ça la Formule Rand.
Exactement. Mais là, Jean Boulay a dit, il y a une partie des cotisations que les gens seront plus obligés de céder obligatoirement, mais c'est le projet de loi qui veut mettre en marche, parce que ces dépenses-là permettent aux syndicats de faire d'autres activités. Là, j'ai parlé de Magali Picard à Dubaï, mais surtout, une chose qu'on vise, c'est la FAE qui utilise les cotisations syndicales pour aller contester la loi sur la laïcité en Cour suprême.
Oh oui, ouais, c'est bien ça. Excuse-moi, parce que t'as fait comme un mouvement, je pensais qu'il y avait un enregistrement. Non. Ouais, moi j'ai de la misère avec ça, puis j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'entendre ce que Lambert a à dire là-dessus, parce que tu sais, le gouvernement du Québec, par exemple, le gouvernement du Québec dépense de l'argent des Québécois pour contester des lois fédérales devant la Cour suprême régulièrement, et c'est parfaitement correct comme ça. Pouvez-vous vous imaginer si le gouvernement fédéral passait une loi qui disait... Ouais, non, à partir de maintenant, si le gouvernement du Québec dépense de l'argent perçu par les taxes sur les Québécois pour contester nos lois, les Québécois ont le droit de ne pas payer leurs impôts. On hurlerait à l'ingérence. On dirait ça n'a pas de bon sens. Là, je comprends que je fais une comparaison, qu'il y a des gens qui vont trouver douteuse parce que je suis en train de comparer des gouvernements à des syndicats. Mais la réalité, quand même, c'est que les syndicats ont un mandat démocratique. On peut parler de la légitimité démocratique plus tard, mais si le problème, c'est dans les procédures démocratiques des syndicats, ce serait parfaitement légitime d'avoir une loi qui encadre la démocratie syndicale au lieu d'une loi qui dit « parce qu'on n'est pas d'accord avec vos contestations de nos lois, on vous empêche de percevoir une partie de vos cotisations ». J'y vois une contradiction avec ce que le gouvernement du Québec ferait par la suite si un autre palier de gouvernement lui imposait la même chose.
Là, moi, je le vois danser sur l'écran Zoom. Je le vois être prêt tel un Rocky Balboa monté dans le ring. Lambert Drainville, place au débat.
Le principe de la Formule Rand, pour moi, elle n'est pas remise en question. Je veux dire, les gens, les employeurs vont être obligés de percevoir la cotisation syndicale qui est dédiée à la protection des travailleurs. Ça, on touche pas à ça. Au fond, le gouvernement, ce qu'il fait, là, bien honnêtement, il fait de la politique. OK, il fait de la politique parce que cette loi-là, de toute façon, elle va être contestée. Elle va être contestée fortement, d'ailleurs, parce qu'il y a des jugements dans les années 90 qui, disons, ne permettaient pas aux différents gouvernements de décider eux-mêmes qu'est-ce qui est une dépense qui va dans le sens de la mission syndicale et qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis là, c'est ça que le gouvernement vient dire. Il vient dire « on est tanné ». Que les syndicats fassent de la politique avec l'argent des membres et on passe ce projet de loi-là pour qu'ils arrêtent de le faire. C'est un peu contradictoire parce que les syndicats font de la politique, je veux dire, depuis la nuit des temps. Les syndicats étaient impliqués au niveau des deux référendums, les syndicats étaient impliqués au niveau de la crise étudiante, les syndicats étaient impliqués au niveau de l'accord de l'ALENA, les négociations de l'ALENA dans les années 80. Fait que, bon, bref, pour revenir à l'essentiel, la Formule 1 n'est pas mise en question. Les syndicats se sont placés eux-mêmes dans cette situation-là. T'sais, je veux dire, là, présentement, ils ne sont pas contents. Ça fait longtemps qu'on sait que les syndicats ont été identifiés par le gouvernement de la CAQ comme des adversaires sur lesquels ils peuvent marquer des points politiques. Et pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent marquer des points politiques? Mais justement parce que la population est un petit peu moins favorable à leur égard quand on regarde justement, comme tu parlais, Jeff, la contestation d'une loi par la FAE, dont leurs propres membres sont fort probablement en accord avec la loi 21. Les dépenses pour les camions, les scotchs, les voyages à Dubaï, les votes de grève, les conventions collectives aux petites heures, les manifs pro-palestiniennes. Fait que les syndicats se sont mis un petit peu dans cette situation-là. Mm-hmm. Ils ont ouvert la porte et le ministre Jean Boulet dit, bien écoutez, il y a des éléments qui n'ont pas de bon sens. Et au final, pourquoi je dis que c'est éminemment politique? Ben c'est parce que ça va toucher 5 % de ce à quoi servent les cotisations présentement. Quand on parle des cotisations qui vont servir à la publicité, quand on parle de l'adhésion aux syndicats, à des mouvements sociaux ou encore la contestation au niveau des recours judiciaires comme la loi 21, c'est à peu près 5 % maximum des cotisations des membres qui sont utilisées pour ces éléments de cette nature-là. Fait que ça va coûter à peu près 20$ par syndiqué, par membre annuellement. Pour les syndicats, un syndicat comme la CSN qui récolte à peu près 100 millions en cotisations par année, ça va leur en coûter 5. Là, fait que c'est pas un big deal. C'est sur le principe que le gouvernement veut agir, le principe de dire... Puis il n'y a rien que les syndicats ne pouvaient pas faire hier, qu'ils ne pourront pas faire après l'adoption de cette loi-là. La seule chose que le gouvernement dit, c'est pour le principe, on va laisser le droit aux membres de dire, bien, nous autres, là, on trouve ça inacceptable de prendre des mesures de grève, de ne pas avoir de salaire pendant des mois, alors qu'on paye une cotisation à chaque semaine. Puis... de voir en parallèle notre syndicat utiliser 2-3 millions pour contester une loi devant les tribunaux.
Non, en effet, t'as entièrement raison. Puis moi, j'ajoute un autre point, c'est les états financiers des syndicats qui sont très difficiles à lire et qui ne sont pas publics, alors que c'est une organisation qui devrait rendre le tout public si elle se dit organisation politique. Farnell, tu voulais ajouter?
Ben, tu sais, ce que tu viens de dire, c'est un exemple de gouvernance des syndicats. Et puis, le projet de loi ne touche pas à ça. Là. Le projet de loi ne vient pas obliger à ça. Si on veut faire, si on a des problèmes sur la gouvernance syndicale, c'est parfaitement légitime d'avoir une loi sur la démocratie, sur la gouvernance syndicale. Mais on pense, par exemple...
Farnell, excuse-moi de t'interrompre, ça va. Le projet de loi touche la transparence au niveau des états financiers, touche la gouvernance au niveau de la tenue des votes.
Puis je ne remets pas ça en question.
Et touche la démocratie syndicale. Mais donc, il touche la gouvernance.
Et je ne remets pas ça en question. Mais tu sais, on parle, par exemple, tu parlais des publicités. Moi, en venant ici dans mon auto, j'ai entendu une publicité d'un syndicat des médecins qui jouait sur le boulevard. Puis je pense que c'est parfaitement légitime si un syndicat veut défendre les intérêts de ses membres qui s'adresse directement au public quand les membres sont assujettis au gouvernement, parce que le public, c'est le boss du gouvernement. Si on commence à permettre au gouvernement de dire « voici comment vous avez le droit, voici comment vous n'avez pas le droit de défendre vos membres », ben là, je veux dire, le syndicat arrête d'avoir les pleins pouvoirs de défendre ses membres comme bon lui semble et comme le mandat qu'il reçoit de ses membres. Ça peut être légitime aller devant les tribunaux, s'adresser aux tribunaux pour défendre les intérêts de ses membres, et ça peut être légitime de le faire même si le gouvernement n'est pas d'accord.
Ce que le gouvernement dit, c'est pas qu'ils veulent l'interdire. Ils font juste dire, pour cette portion-là des cotisations, on veut que les membres puissent se prononcer.
Mais c'est ça. Mais t'imagines-tu, si le gouvernement... Si moi, j'allais voir le gouvernement, je disais, hey, moi, je suis pas d'accord que vous contestez cette loi fédérale-là, alors je retire de mes impôts. Cette conversation-là, il n'est pas long avec le fisc. Non, oui, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. J'ai le droit de retirer une partie de mes cotisations. C'est en plein la même chose.
Non, ce sont des gouvernements dûment élus.
Ben oui, puis les syndicats sont élus aussi. Les syndicats aussi sont élus. Là, je comprends qu'il y a des questions sur le... Je suis d'accord. Ben oui, je suis d'accord avec un projet de loi qui va encadrer la démocratie syndicale. C'est pas ça la question. C'est qu'on est en train de retirer la formule RAND de tout ce qui est la représentation qui va à l'extérieur de ce que le gouvernement décide pour les syndicats. Voici comme vous avez le droit de représenter vos membres. J'ai de la misère avec ça.
Encore là, ils ne décident pas à leur place. Ils font juste, ils créent une nouvelle catégorie avec des nouveaux critères, puis ils leur disent si pour la portion des cotisations qui touchent ces nouveaux critères-là, tout ce qu'on vous demande, c'est une fois par année de consulter vos membres à savoir s'ils sont d'accord. Et si les membres, comme je le pense fortement, comme toi, sont d'avis que leur syndicat a le droit d'utiliser cet argent-là pour faire de la publicité, pour se faire entendre, bien, ils vont juste voter pour. Puis ça va rien changer, tu comprends? Mais ils se seront prononcés au moins là-dessus. Puis quand on va rentrer dans des choses qui sont un peu plus touchées, quand on parle d'argent utilisé pour aller à Dubaï en pleine négociation, de scotch, de camion, bien là, les membres vont peut-être dire, bien écoute, moi, je suis un petit malaise avec ça. Et encore une fois, même pour ça, ce sera à eux de décider s'ils sont à l'aise ou pas. Et s'ils ne sont pas à l'aise, bien, ça représentera pour les syndicats une très, très, très infime partie de leur budget annuel.
Messieurs, j'adore vous voir vous enflammer comme ça. C'est fun, ça fait un bon débat. Le segment Lambert, Drainville, Farnell, Morissette, Pascal, CV, il y a de l'avenir.
Mais moi, je trouve ça le fun parce que c'est deux gars qui viennent de deux contextes différents, mais yes. qui essaient de trouver point commun, ah, sinon qui débattent. Exactement. Ça, ça fait du bien. Je trouve que c'est meilleur
un
que
débat
le face... C'est meilleur que le face-à-face à la mairie de Québec
oui,
hier.
Oui, c'est vrai, certaine. C'est un beau débat sain. On termine ce nouveau segment Farnell, Morissette, Lambert, Drainville. Je vous fais entendre Christian Dubé sur LCN hier et TVA à l'émission Le bilan concernant l'impasse dans les négociations avec les médecins. Les gars, aujourd'hui, on n'est pas rendu à la loi spéciale, mais demain, on y sera rendu parce que là, ça n'a plus de sens. Il n'y a plus rien qui marche dans ces négociations-là. C'est un discours de sourd. Moi, je me suis déjà prononcé. Je trouve que les médecins la jouent très dur à l'heure actuelle envers le gouvernement. Parce
alors qu'ils n'ont pas les cartes dans leur jeu. Ils n'ont pas les cartes dans leur jeu pour jouer dur comme
l'envers.
Ça. Non, mais
non, non, mais c'est vrai, exactement.
Moi, je veux partir en disant, les médecins, là, tous ceux qui m'entendent, là, une grande majorité de médecins sont des bourreaux de travail. Ils sont tellement importants à notre société, au fonctionnement du réseau de la santé. Et à travers le gouvernement, ces indicateurs de performance, le projet de loi 106, ils visent vraiment là, une très, très, très petite et infime partie des médecins qui, selon eux, pourraient en donner plus au niveau des services rendus à la population. Alors, c'est sûr qu'on s'en va vers une loi spéciale, Jeff. Parce qu'il leur reste quoi? Là? Les négos vont nulle part. Ils ne veulent pas déroger du projet de loi 106. Ils ne veulent même pas discuter du principe. Le gouvernement, lui, il ne veut pas toucher à l'arbitrage parce qu'ils savent que ça va leur coûter un bras. Là, ça fait un mois que la FMSQ enseigne plus. Tu as 1000 étudiants en médecine qui, à partir des prochains jours, pourront plus, malheureusement, passer à la prochaine étape et venir porter de l'aide là, dans le réseau prochainement, puis Dieu sait qu'on en a besoin. Alors là, ils n'ont pas les cartes dans leur jeu. Le gouvernement a la loi spéciale dans son jeu. Le gouvernement a le baillon dans son jeu. Et j'en reviens pas comme ils ont été en mesure de... Les médecins sont en train de perdre la bataille de l'opinion publique. Là, t'sais.
Ah, clairement.
Leur moyen de pression sur les étudiants, leur frasque de faire un putsch au président du Conseil des médecins, le gouvernement, lui, il n'a rien à perdre. T'sais, si j'ai un affaire que j'ai à leur dire là, aux deux fédérations de médecins, aux deux syndicats de médecins, le gouvernement n'a rien à perdre. Il est en fin de mandat, il est hyper impopulaire. Le PM est absolument décidé que lui, il veut être le premier gouvernement à ne pas reculer. Alors, c'est soit que vous mettez de l'eau dans votre vin et vous vous asseyez puis vous discutez du principe derrière le projet de loi 106, ou vous vous faites imposer une loi spéciale, imposer un baillon, puis vous vous retrouvez avec le pire des scénarios, c'est-à-dire le projet de loi 106 et en plus une perte au niveau de l'opinion publique.
Farnell Morissette, es-tu d'accord avec Lambert Drainville que les médecins devraient se rasseoir à la table des négociations? Moi, c'est mon opinion. En tout cas, je pense qu'ils devraient se rasseoir avec une ouverture d'esprit.
Ben, je pense que jamais, c'est jamais une bonne idée de ne pas être à la table de négociation. Ça peut être une espèce de stratégie de vouloir attirer l'attention qu'on a l'impression que la contrepartie négocie mal, mais même là, on veut au moins être présent à la table. Mais je prends un pas de recul parce que je comprends là, que le ministre, on lui pose la question, est-ce qu'il va avoir une loi spéciale ou pas? Jamais un ministre va écarter la possibilité d'une loi spéciale dans les médias, qu'il ait l'intention de l'utiliser ou pas, parce que s'il dit on ne va pas l'utiliser, ce que ça envoie comme signal à sa contrepartie au syndicat qui négocie, c'est « Ah ben là, il vient de dire qu'il ne va pas utiliser sa plus grosse carte, alors on va y aller plus fort. »
C'est ça.
Alors même qu'il ait l'intention ou non, jamais tu vas entendre un politicien écarter la possibilité d'utiliser la loi spéciale, à moins d'une situation exceptionnelle. Alors, j'irais pas voir dans le fait que le ministre refuse d'écarter la possibilité une certitude que ça s'en vient, mais c'est sûr que c'est une question qui est névralgique, particulièrement la santé, particulièrement dans notre société, dans notre culture. J'imagine mal une situation où le public permette que ça dure encore longtemps. Je pense qu'il y a quand même un prix politique à payer, puis là, je comprends, Lambert a parfaitement raison, c'est un gouvernement qui est probablement en fin de vie, et qu'il n'y a plus rien à perdre, je m'inquiète de qu'est-ce que quelqu'un fait quand il sent qu'il n'y a plus rien à perdre, mais il y a encore le pouvoir. Alors, je ferai attention là-dessus. Je pense que les médecins devraient le savoir. Puis il y a peut-être des médecins qui se disent, bon, on a juste à attendre aux prochaines élections. On a juste à attendre. On n'a pas besoin de gagner. On a juste à attendre que vous soyez plus au pouvoir.
Que vous soyez plus au pouvoir. Fait que le fait que la CAQ est désespérée vient faire en sorte que les médecins aussi peuvent tenter de la jouer un petit peu plus en gros bras. C'est ce que je comprends.
Ben, une loi spéciale doit quand même être respectée. Alors, oui. Si une loi spéciale spéciale, ça peut potentiellement se passer relativement vite, mais je crois que ça va pas être une solution, ça va juste être une partie remise, et je pense que ce serait dans notre avantage à tous d'avoir une solution.
Yes. Lambert Drainville, je termine avec toi, justement, ce très beau débat et ce très beau segment Farnell-Morissette, Lambert Drainville. Admettons qu'un PQ est élu, est-ce que le PQ est dans les mêmes eaux que la CAQ, ou le PQ pourrait ouvrir un petit peu plus, pour être plus favorable aux médecins, tiens?
Ils sont dans une position délicate, le PQ, parce qu'effectivement, je pense qu'ils ont pris un petit peu position il y a quelques semaines, quelques mois, du côté des syndicats, mais ils marchent une ligne qui est très fine. Tu sais, pourquoi est-ce que la CAQ en a fait un cheval de bataille, les ont identifiés comme un adversaire sur lesquels ils pouvaient marquer des points politiques? C'est qu'ils sentent qu'ils ont une majorité de Québécois qui sont du même avis qu'eux. Il y avait un sondage léger fin septembre qui disait 57 % des Québécois, donc plus qu'un Québécois sur deux, qui souhaitent la modernisation des lois qui encadrent les relations de travail ou qui aimeraient qu'elles soient renforcées. Ils le savent, ça. Et donc, le Parti québécois, c'est un peu délicat parce qu'ils veulent critiquer la CAQ, mais ils veulent pas se mettre la population non plus à dos. Alors, moi, je pense que, sais-tu quoi, si j'avais à faire un pari, le Parti québécois, pour le reste des débats, que ce soit au niveau du projet de loi de M. Boulay, au niveau des fédérations médicales, je pense qu'ils vont marcher cette ligne-là très fine, qu'ils vont longer les murs, essayer de pas se mettre les deux mains dans le plat de bonbons puis d'attendre que ça passe.
Oui, Farnell, dans le fond, ils vont laisser Québec solidaire faire la job pour les syndicats puis rester à l'écart, le PQ.
Oui, je pense que le PQ a intérêt à attirer l'attention ailleurs, comme ils le font dans les... En tout cas, c'est leur stratégie, là. Je pense qu'ils ont fait leur choix. Oui, je pense pas que... J'ai pas l'impression qu'ils ont grand-chose à gagner à essayer de sonner cette cloche-là.
Excellent. Pascal Cévé, t'as-tu aimé ça, le débat, Farnell, Lambert?
Oui, mais il me reste des questions.
Questions.
On peut-tu les re-recevoir prochainement?
Ben, on va les re-recevoir à chaque semaine.
Parfait.
Tu vas pouvoir poser plein de questions.
Je tiens à préciser pour les auditeurs, moi et Lambert, on est des bons amis. Là. On est capable de se parler. Puis on
ça s'appelle encore une fois un débat sain.
Ouais.
C'est plus le fun comme ça. Moi, je préfère avoir quelqu'un devant moi qui me challenge, qui me remet en question, qui me pousse à amener ma réflexion à un autre niveau. Puis Dieu sait que Farnell est le champion d'amener ma réflexion à un autre niveau.
On s'est préparé pour notre débat Lévis mardi prochain, Pascal, en animant ceci aujourd'hui.
Absolument.
C'est le débat entre les trois candidats. On le rappelle, midi sur nos ondes, mardi prochain, 21 octobre. Serge Bonin, chef de Repensons Lévis, Isabelle Demers, chef de Lévis Force 10, et Stephen Blainey, chef de Prospérité Lévis, qui sera en débat ici sur les ondes de Boulevard 101. Lambert Drainville, je te souhaite un excellent week-end, mon chum. Merci de participer comme ça à l'émission. On en jase sur l'heure du midi.
Un grand plaisir, les amis.
Farnell Morissette, même chose. Merci
toujours
beaucoup.
Un plaisir.
C'est toujours
aussi
un plaisir. On se reparle vendredi prochain. Dans le cas de Lambert, on se parle mercredi. On va souhaiter, Lambert, que mercredi, on ne sera pas obligé de reparler de Leadership Québec puis de respect citoyen, à savoir c'est qui le plus vilain.
Ben, j'espère qu'ils vont commencer à dire au monde c'est quoi qu'ils proposent. Puis s'ils font pas, ben qu'est-ce que tu veux, on mettra le jingle.
Yes, sir! C'est vrai, c'est une bonne idée. On va mettre le jingle de Leadership Québec. Hey, là-dessus, on fait une courte pause par la suite. Mathias Turcotte est allé au point de presse, Pascal CV, de Bruno Marchand. Une super belle annonce en termes de volleyball de plage.
Ouais.
Hey, j'ai hâte d'entendre Mathias
Turcotte d'avoir
là-dessus.
Peu de réactions. C'est juste que ça me fait un peu rire de voir qu'on fait des annonces sur le volleyball de plage avec tout ce qui se passe à Québec, parce que justement, on est au-dessus de cette chicane-là, puis on se dit, on va continuer des annonces, nous autres, qui essaient de parler au public.
Exactement.
Bruno Marchand a commencé sa campagne électorale en ayant bien peur de sa maman, et finalement, il fait des annonces de volleyball de plage le 17 octobre en pleine campagne. Je vous jure que juste cette phrase-là dit tout de ce qui se passe à Québec.
C'est un très bon point. Évidemment, Bruno Marchand est revenu sur cette chicane entre Stéphane Lachance et Sam Hamad. Donc, courte pause et on revient. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase.
Juste jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Très belle température présentement sur Québec.
Soleil magnifique, mais un petit froid, je pense.
Ouais, 10 degrés, il annonce 14 degrés ensoleillés au maximum aujourd'hui. 13 degrés, alternance de soleil et nuages demain, mais 18 degrés dimanche ensoleillé. Pascal CV, tu le sais, on remet à jour ton calendrier.
Vous me le remplissez pas à peu près.
Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'il y a de quoi qu'il faut pas que tu manques. Hier, tu étais au lancement du livre. Ah oui, je prends 45 secondes pour le mentionner. Tu étais au lancement du livre. Moi aussi, j'y étais, de Catherine Bachin. Il n'y a pas d'hasard dans la vie.
J'ai rarement vu un lancement de livre aussi extraordinaire. Là.
Hey, c'était beau, hein?
Tout le monde achetait un livre. Tout le monde était content d'être là. C'était une vraie festivité humaine.
Ah, vraiment. Puis Kat est tellement extraordinaire comme personne qu'elle méritait ça. Vraiment. Lorsqu'elle a lu les remerciements dans son livre, son père, ses filles. Ah, c'était de toute beauté. Quelle belle soirée on a eue. Donc, tu avais ça à ton calendrier.
Ouais.
Mais là, on va avoir une méchante belle soirée avec nos auditeurs mercredi prochain.
Permettez-moi d'être contente de mettre autre chose que mon kit de sport mercredi prochain.
Ça.
Le 22 octobre, 17h, on se grime, on se met beau, mais surtout, on y va avec le grand sourire parce que 10 ans de boulevard.
Ouais,
10 ans déjà à concevoir cette radio-là avec une petite équipe tissée serrée.
Ouais.
Il y a eu des changements, c'est ça le monde de la radio, mais il y a certainement eu un genre de bonheur à créer les shows que vous avez qui vous ont accompagné pendant 10 ans. C'est ça qu'on s'en va souligner au Malcommode mercredi prochain. Donc, les 10 ans, une décennie complète depuis 2015 que Leclerc Communication a cette radio-là dans le marché 100% conçu à Québec. C'est par et pour des gens de Québec. Puis c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté de quelque chose.
Oui, parce que là, il y a deux décennies de quelque chose avec le 10 ans. Là. C'est quoi cette affaire-là?
Ben, c'est un peu l'intronisation au Radio Hall of Fame d'un duo connu. Très connus même, Denis et Véro. Ils sont sortis ensemble, ça c'est une autre histoire. Chose certaine, ils ont passé à travers beaucoup, beaucoup d'épreuves,
ben
dont
oui.
Sortir ensemble. Je sais pas comment ils ont fait.
Moi non plus.
Surtout Véro. Mais c'est 20 ans de carrière de French interrompue pour continuer à partager leur langue en ondes pendant
exactement.
20 ans. Puis d'être si serré,
ouais.
Pas juste comme un vieux couple, mais comme d'une complicité exceptionnelle.
Ben oui.
Puis la longévité en radio la longévité en radio du type, là.
Il n'y en a pas.
Pas vu ça, ben. Et eux l'ont fait. Donc, on va souligner ça. Ça se vaut. Musique live avec Big Muff. Paquet de surprises. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Vous cherchez quelque chose de gratuit? Vous cherchez une festivité? C'est mercredi prochain au Malcommode. Promenade Beauport. 3333 rue du Carrefour. Tapez ça sur GPS, là. Mais venez donc nous voir 17h au Malcommode. À Beauport, mercredi prochain.
Toute la gang de Boulevard va y être. Tous vos animateurs et animatrices préférés également.
Même ceux que vous aimez pas,
présents.
Moi, être là.
Même ceux que vous aimez pas, mais venez pas nous dire des niaiseries. Là. On est heureux ce soir-là. Hey, il y en a deux qui mangent des niaiseries des auditeurs, par exemple, par texto.
Ouais.
Et c'est Sam Hamad et Stéphane Lachance.
Encore.
C'est moi où plus les candidats sont vieux, plus c'est de la vieille politique de chicane plutôt qu'une vraie communication ouverte et sensée.
Ça, c'est intéressant.
J'aime ça.
C'est peut-être un parallèle rapide. Rapide, parce qu'il y a aussi... Ben pour moi, je fais même des fois la comparaison sur la vieille politique, à quel point on travaillait en amont.
Mm-hmm.
Même sur les choses qui n'étaient pas très sexy. On s'occupait de nos égouts, on s'occupait de nos poubelles. Donc, il y a deux franges, mais effectivement, il y a quand même cette politique-là d'égo qui perdure. Puis on peut voir que c'est le pouls de ce qui se passe là, en
exactement.
Ce moment.
Et je vais justement en profiter pour faire jouer l'extrait. Et je le salue, Mathias Turcotte, qui est avec nous en studio. Salut, Mathias.
Salut, Mathias.
Mathias, hier, qui est allé au débat à l'Université Laval, débat où Stéphane Lachance et Sam Hamad étaient absents. C'est Joey Aubé, un candidat de Respect citoyen, qui a pris la place de Stéphane Lachance. Sam Hamad, il n'y avait pas de candidat de Leadership Québec. Et Mathias nous a fait un bon résumé, c'est une quarantaine de secondes, sur les enjeux pour les étudiants. Parce que là, on vient de parler de vieilles politiques et de vieux politiciens. On écoute à l'instant même.
Quand même, je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux là, qui sont centrés justement sur les étudiants.
Particulièrement sur la question de la mobilité.
Et je dirais qu'il y a certains enjeux qui me touchent, comme le transport, par exemple.
C'est sûr que la question du transport, la question d'accès au logement, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup.
Mais je pense que ça me rejoint assez bien, là, tout ce qui est transport.
Notamment quand on parle de l'accès au logement, l'insécurité alimentaire, même le transport durable, je crois que c'est tous des liens qui me touchent dans ma vie quotidienne.
Moi, je suis né à Québec, donc depuis que je suis jeune, j'emprunte le transport en commun.
Il y a des partis sont présents énormément sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, des choses qu'on ne voyait pas nécessairement dans le passé. Ils s'adressent à nous directement, donc on voit qu'il y a un effort.
Qu'est-ce que tu retiens, Pascal?
T'as vu mes yeux, hein?
Ben oui.
Que le transport avant la crise du logement actuellement dans cette tranche-là de la population.
Transport durable.
On s'entend.
Transport structurel.
Collectif et tout ça.
Collectif, c'est la façon de vivre de nos jeunes.
On s'entend, là. C'est une mince statistique, là. T'sais, Mathias est allé à l'Université Laval. Il a pris les gens qui étaient autour, qui étaient déjà prêts pour le débat, je crois, qui mangent un peu de la politique. Mais on peut prendre cet échantillonnage-là puis considérer qu'ils n'ont pas copié la réponse de l'autre. Ça a été fait de façon individuelle. Puis le transport sort en premier. Je tenterai avec Mathias d'aller explorer ça un peu, je pense, dans les prochaines semaines. J'irai te rejoindre à l'université, puis on ira jaser avec du monde, parce que je me dis, le transport en commun, est-ce que c'est les gens comme Max Larouche qui vont pas chercher leur permis, puis qui se disent, ben, j'ai besoin de plus de fluidité parce que rendu à un certain âge, mes parents jouent plus au taxi. Est-ce que c'est vraiment le pont sur le troisième lien? Qu'est-ce qui intéresse ces jeunes-là qui vont en profiter? Parce que nous, ça se peut qu'on construise des choses pour qu'on ne vive jamais.
Moi, je pense qu'il y a relié beaucoup au coût de la vie.
Assurément. La crise du logement, c'est pas surprise.
Non.
Du 0-0-0.
Mais le transport le temps de relié beaucoup au coût de la vie parce que les jeunes, puis moi j'en connais là, des jeunes familles qui habitent en ville, là, des jeunes couples, là, 25, 27, 30 ans, viennent d'avoir leur premier enfant. Il n'y a pas personne qui a deux genres, eux autres. Là.
Ben non, puis là on commence à
couper
les stationnements.
Ils n'ont pas les moyens d'avoir deux
genres. Puis c'est pas l'intérêt, de ce que je comprends. Exactement. C'est pas l'intérêt. Eux, ils veulent se déplacer en moins d'une heure, une heure et demie entre Beauport et le centre-ville. Ça, c'est déjà pas normal.
Oui,
là.
Et ils tentent de trouver une habitation proche de leur lieu de travail, justement. Il y en a un qui peut y aller à pied, qui peut y aller en transport actif. Tu sais, je vous le dis, là, puis je veux pas avoir l'air, là, je veux pas avoir l'air présentement là, de quelqu'un qui veut faire la morale aux gens. Pas du tout. Mm-hmm. Mais parler aux jeunes. Parler aux jeunes de 24, 25, 27, 30 ans, là, demandez-leur comment ils vivent et comment ils vont vivre à 50 ans. Et c'est complètement différent de comment nous, on vit. Fait que c'est pour ça qu'il faut regarder la ville dans 20 ans.
Oui, parce que de toute manière...
Pas présentement, parce que c'est eux autres qui vont en vivre, cette ville-là.
Si on commence à construire certaines infrastructures, on se connaît. On connaît le provincial, on connait le fédéral. On le vit pas, là. Moi, j'ai 31 ans, ça se peut que je sois en marchette, là, au moment où ça va être construit. Surprenamment, c'est la première fois de ma vie que je dis ça.
Non, non, non.
Radio.
Non, mais c'est clair que c'est ça. Faut regarder comment ces gens-là vivent et se projeter dans 20 ans. Et c'est comme ça qu'il faut faire de la politique. Et à l'heure actuelle, malheureusement, dans les chicanes qu'on a entre Respect Citoyen et Leadership Québec, et dans les propositions, puis tu sais, je m'en cache pas, puis je pense que tout le monde le sait, dans les propositions que Respect Citoyen fait, c'est des propositions actuelles.
Mais pour la majorité.
Pour la majorité
pour
actuelle.
Pour donc se faire
comment on vit présentement. Mais moi, ce que je veux d'un politicien, c'est qu'il se projette dans 15-20 ans.
Je veux un mélange de tout. Assurément, il faut voir c'est quoi en ce moment qui monopolise notre politique puis qui crée du désarroi chez les citoyens. Mais c'est sûr que si on parle de projet de plusieurs années, il faut y voir tout de suite. Je me suis posé la question hier à savoir si c'était pas électoraliste de se dire « Ah! » Il y a deux chefs qui ne se présentent pas auprès des jeunes pour leur débat demain, puis on va taper là-dessus pour ceux qui avaient leur chef en place. Puis là, c'est une bonne clé, puis on va dire qu'ils n'ont pas de respect pour les jeunes. Tu sais, t'as Anne Guérette qui en a fait une publication aussi, qui a dit « Je pense à nos jeunes, à mes garçons, à leurs copines, à leurs amis, à toute une génération qui commence à bâtir leur vie, à rêver, à douter parfois. Faut pas les négliger. » Là, je me dis « Est-ce du capital politique? » Avec le ramassis d'informations que Mathias nous livre puis vous a livré ce matin, si vous voulez reprendre ça dans l'émission de Marceau le matin, il y a une grande question qui n'est pas juste du capital politique à se poser.
Non, 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 il y a une grande question de génération. Mathias Turcotte, on est super heureux. Tu en as parlé ce matin, tu es avec nous pour faire du terrain pendant la campagne électorale jusqu'à la fin de celle-ci, donc jusqu'au lundi suivant les élections, parce qu'il va y avoir des réactions après ces élections-là.
Ah, j'en doute pas. Des réactions fortes, autant du côté du gagnant, selon moi, grosses célébrations à prévoir, mais du côté des perdants, ça se peut que ça tape sur la tête du gagnant.
Et là, Pascal Cévin nous en parlait tantôt, elle dit, je peux pas croire, Bruno Marchand avait peur de Sam Ahmad ou craignait cette campagne-là, ce face-à-face-là avec Sam Ahmad. Puis présentement, ben, ces petits trains vont loin pour Bruno Marchand tellement qu'on est rendu qu'on parle de volleyball de plage.
Moi, je comprenais pas. Le 17 octobre, en campagne électorale, quand tu es en train de te battre pour ta place, tu es rendu... Puis là, je veux pas négliger le volleyball. Hein? Je veux pas choquer nos athlètes là, de Québec, mais ça veut dire beaucoup de parler de ça le 17 octobre puis d'en faire un point de presse. Là.
Exactement. Il est même pas en train de défendre le tramway.
Il a les pieds sur le pouf. Là.
Oui, mais en même temps, selon moi, à voir jusqu'à maintenant l'agenda politique de Bruno Marchand, il fait des annonces chaque jour.
Clairement.
Fait que selon moi, c'était prévu d'avance, par contre, cette annonce-là. En tout cas...
Elle aurait tombé s'il y avait une autre discussion que la chicane qui se passe dans son angle mort puis qu'il n'ose même pas regarder puis il dit « Ils vont faire un accident, mais ça ne me concerne pas. » Là.
Raconte-nous, quelle est cette fameuse annonce-là de centre sportif à l'école François Bourin?
Donc oui, ce serait un centre sportif. On parle de 10 terrains de volleyball intérieur et de 6 terrains de volleyball de plage couverts. Donc des terrains de volleyball de plage qui seraient à l'année longue. Ce serait les premiers terrains dans la ville de Québec de la sorte. Donc vraiment, un beau mois de décembre, tu te dis « Je m'en vais jouer au volleyball de plage », ben tu vas pouvoir...
Ça va être comme le Dôme au Stade Canac?
Un peu, genre, oui, un peu. On a fait la comparaison.
Imagine Beach Party à l'année, Pascal!
Je suis désolée. Je suis vraiment contente pour ces gens-là, puis c'est parfait. Je veux une ville de Québec qui bouge, je veux des installations.
Beach Party!
Je suis morte de rire que ce soit l'annonce aujourd'hui. Et je néglige en rien. Comprenez-moi, là, le fait de jouer dans ces affaires-là, c'est ça qu'une ville doit faire, tu sais.
Ben oui, construire des infrastructures.
Mais bon.
Pour le sport. Hey, un petit Beach Boy, gang. Tant qu'à être là. Attendez, là, ça s'en vient.
Tiens, tu es ton momentum. Ouais, comme Bruno Marchand, c'est momentum.
Et voilà!
On se met dans l'ambiance. Ça va jouer en décembre. Dans le nouveau centre sportif.
Dans le dos. École François Bourin.
Mais je suis contente, je vous le jure.
Ben oui, moi aussi. J'adore le volleyball de plage.
Pensais-tu mettre du Beach Boy en décembre, jouer au volleyball?
En n'importe quand. Je pensais que la première fois que ce soit l'annonce.
Puis là, Mathias, il va avoir une piste de course là-dessus aussi.
Oui, une piste intérieure de course, c'est la deuxième dans la ville de Québec.
De course karting?
Une piste de course intérieure, donc pour courir, à marche.
Ton cerveau est encore au Kilimanjaro là-dessus, fille.
On a des coureurs dans la ville de Québec.
Du monde qui court.
Du monde qui va se pratiquer pour le marathon de Québec.
Avec leurs
jambes.
C'est ça, on court.
Donc, la seule présentement en place, c'est au centre de glace dans Sainte-Foy, qui est quand même utilisé par 110 000 personnes par année jusqu'à maintenant. Donc, on va venir rajouter une deuxième. Puis, Pascal, tu rêves un peu de ça, cette annonce-là. Puis c'est vrai que, mettons, en plein milieu d'une campagne électorale,
c'est candide, c'est beau.
C'est beau.
Mais il faut comprendre que présentement, il y a quand même un gros besoin en infrastructure de volleyball. C'est un sport qui se développe énormément dans notre ville. Et d'ailleurs, Stéphane Martin, directeur général du club de volleyball de la capitale, nous en fait mention.
Au niveau du volleyball, là, juste cette année, on a 30 % de plus de jeunes. On a refusé 400 jeunes de pouvoir faire du volleyball civil avec nous autres par manque de plateau. Oh. Donc, présentement, je travaille beaucoup à restructurer mes plateaux parce que, comme vous le savez, il y a eu l'incendie au Patro Recamado. Donc, j'ai perdu 4 plateaux là. Donc, je suis à rechercher des plateaux à chaque semaine pour relocaliser mes équipes pour qu'ils puissent pratiquer. Donc, là, présentement, je vous le dis, on est après regarder un entrepôt temporaire pour le temps que le patron revienne, fasse son ménage puis qu'on puisse avoir accès en janvier.
Tu sais, on gère les petites affaires, puis c'est là que c'est important.
Oui.
C'est dans la capacité de donner aux jeunes des endroits pour bouger.
Exactement.
C'est le fondement de la santé.
Oui.
Puis de refuser ou d'être dans l'incapacité de répondre à un appel sportif. Soit que les jeunes veulent. Mm-hmm.
Volleyball, basketball sont des sports qui ont repris beaucoup en popularité dans les écoles. Et pourquoi? Tout simplement à cause du coût de la vie.
Ça coûte moins cher. Hein? Mm-hmm.
Ça coûte bien moins cher que jouer au hockey ou faire du cheerleading. Donc, ça regagne en popularité. Ça fait bouger nos jeunes.
Oui, puis il va être possible justement de faire du futsal, notamment aussi sur des terrains de volleyball. Ça va être facilement adaptable.
C'est du soccer intérieur?
Oui, du soccer intérieur, exactement. Donc, par contre, c'est sûr, ça vient avec un coût, un tel centre sportif. Présentement, le coût projeté est de 36 millions de dollars. Donc, présentement, c'est la plus grosse promesse en termes monétaires sur court terme de Bruno Marchand. Présentement, parce qu'il nous l'a dit qu'il allait avoir des annonces plus grosses qui s'en viennent. Mais si c'est 36 millions de coûts, forcément, on a besoin de subventions provenant du provincial. Des subventions qui peuvent aller jusqu'à 66 %. C'est très rare, là, ces temps-ci, en temps de coupure budgétaire. Mais on se rappelle, dernièrement, le centre de curling.
Oui, c'est ça.
Subventions provinciales sont où? Ben, pourquoi ce projet en aurait plus? Voici la réponse du maire Marchand.
Ben, vous avez vu, les budgets ont été coupés dans certains de ces programmes-là. On espère, avec la démonstration qui est évidente, le besoin qui est évident, mais aussi la collaboration des acteurs, le lieu où on le fait, les besoins dans l'est de la ville, on espère que notre cause va être bien entendue. Oui, mais dans un contexte où j'en ai parlé avec le ministre de la Capitale-Nationale, pas de ce projet-là, mais de leur intérêt à soutenir des projets dans les infrastructures de proximité dans les quartiers, ce qui est notre ADN. Il y a de l'appétit, il y a de l'ouverture, il n'y a pas de promesse, mais M. Simard est entre autres un député de la région ici, alors on va travailler tous ensemble pour faire en sorte que ce projet-là aille de l'avant.
J'ai déjà vu plus convaincant que ça.
Oui, plus convaincant, en effet. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent qui peut provenir de l'extérieur des autres paliers de gouvernement, et les autres paliers de gouvernement en ont pas d'argent à l'heure actuelle. Hey, avant de parler de la chicane, la chance à Matt, on s'en remet un peu de positif.
Moi, je propose un match de volleyball de plage, Leadership Québec, Respect Citoyen, on règle ça une bonne fois pour toutes.
Ah, ben oui, c'est facile. Puis là, le gagnant, ben, c'est lui qui se présente contre Bruno Marchand.
Ah, ils vont trouver à chicaner pareil. Les gars, en plein match, il va falloir l'arrêter. Puis Bruno Marchand va arriver en disant, venez, on va prendre un autre terrain.
Imagine, là, l'arbitre, protège sur l'arbitre, tout le kit. Ah, oh, shit, hey, si, qui a l'enregistrement du match, finalement? On était pas sûr, la reprise vidéo, c'était-tu bon ou à l'extérieur, ce ballon-là? Ah oh, non, on fait pas ça.
Mais on va pas vouloir publier la reprise vidéo.
C'est ça, on va la garder. Hey, Bruno Marchand, il pense quoi justement de cette chicane-là?
Ben honnêtement, j'ai été un peu surpris du ton, puis j'ai été agréablement surpris du ton que le maire Marchand a pris. Tout d'abord, il a commencé vraiment en disant que la situation le désolait.
Je pense pas que Québec, présentement, fait bonne figure là-dedans. Là. Je pense pas que d'avoir deux messieurs qui sont candidats à la mairie, qui habitent pas la ville, venir ici... s'accuser l'un et l'autre d'infractions à la loi électorale, des infractions qui sont passibles d'inéligibilité pendant 5 ans. C'est grave, là. Et se retrouver avec... Ils ont beau dire, là, on n'en parlera pas, là. C'est impossible. Là. Il suffit d'avoir suivi la campagne et les 4 dernières années à Saguenay pour voir que ça a été un sujet d'actualité constant. Là. Fait qu'ils ont beau dire, on n'en parlera pas. C'est évidemment... un sujet d'actualité, d'avoir des maires qui présentement seraient en attente d'une décision et peut-être devenir inéligibles, ça change tout. Alors, toute la question de l'enquête, process il y a, décision du DGEQ, ça va faire en sorte que ça va être le sujet à l'ordre du jour pour les prochains mois. Là. Et je pense pas que les gens de la capitale, les gens de la capitale du Québec s'en sortent grandis. Je pense pas que les citoyens sont heureux de ça. Je pense que le monde est même tanné de ça. C'est dommage.
Imaginez, la question de l'urne était censée être le tramway. Et maintenant, la question de l'urne s'est rendue. Est-ce que vous voulez d'un maire qui pourrait être destitué? Ouais. C'est carrément ça.
Ben oui, c'est triste à dire. Puis ça nous éloigne des vrais enjeux déjà que de base.
Ben oui.
Pour moi, la question de l'urne, est-ce que le tramway doit avoir lieu ou pas? C'était la question de l'urne en 2021.
Ouais.
C'est un peu problématique que ça devait l'être en 2025.
Mais Stéphane Lachance, sa maman l'avait ramené, puis c'était correct,
je pense,
que ce soit la question de l'urne.
Mais là, de que la question de l'urne soit même pas sur des enjeux, sur des propositions, mais seulement sur, voyons, est-ce qu'on a des candidats qui ont commis des choses illégales? Et effectivement, c'est problématique, puis je pense qu'il y a personne qui est heureux de ça. Hier, Claude Villeneuve m'a dit que pour lui, les deux candidats présentement la chance à Matt pourrissaient un peu la campagne électorale. Donc, j'ai posé la question à Bruno Marchand. Est-ce que présentement, ces deux candidats-là nuisent plus à la campagne que d'autres choses?
Et présentement, c'est un sideshow. Présentement, c'est un sideshow qui nous amène tout le temps ailleurs. Regardez la capacité, puis je blâme aucunement les médias, c'est les éléments principaux de la campagne depuis le début, là, depuis le début de la campagne, ces éléments-là datent maintenant de 7-8 jours. Là, les gens sont déjà tannés. Mais depuis le début de la campagne, on est toujours à quelque chose qui est en périphérie. Les gaffes de un, les commentaires de l'autre. Puis, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les deux partis qui font le moins d'annonces.
Pascal, explique-moi ça. OK? Bruno Marchand est sûrement un des maires les plus impopulaires de la ville de Québec. 51% des gens dans le dernier sondage disaient « on veut un changement à mairie ». Comment ça, Stéphane Lachance, sa maman avait besoin de s'associer pour le battre? Comment ça était pas assez bon pour le battre tout seul?
En fait, comment ça, il avait besoin de se chicaner pour le
c'est
battre? c'est ce qui se passe souvent quand, ben,
dans les
courants politiques.
C'est la grande
là.
Question que j'ai. Moi, je me dis, pourquoi vous venez de gaspiller une semaine de campagne électorale à essayer de vous associer de façon complètement absurde?
Puis clairement qu'on voit que ça fonctionnerait pas. Là.
Exactement.
Il y aurait de la chicane.
Oui, puis de toute façon, on le savait à base que ça marcherait pas. Là. Il y a des gens dans l'équipe de Leadership Québec qui détestent sa mamade pour mourir, puis il y a des gens dans l'équipe de Respect Citoyen qui détestent sa mamade pour mourir. Stéphane, Leadership Québec pour Stéphane Lachance et vice-versa. Donc, c'était voué à l'échec.
Permets-moi
déjà à la base.
De proposer l'hypothèse de la médiocrité. Le mot est fort.
Non, non, mais t'as raison.
Mais c'est l'hypothèse qui me vient parce que depuis le début, on souhaitait avoir une opposition forte avec un plan concret. On avait une notoriété claire. On avait quelqu'un qui, pour sa maman, avait déjà fait de la politique, donc il est arrivé avec un tapis rouge.
Oui, puis il est arrivé aussi avec en disant « Je suis l'homme d'expérience, j'ai été ministre de la Capitale nationale, j'ai géré le Conseil du Trésor. »
Et ça aurait pu.
Je sais comment ça marche.
Mais rappelez-vous toujours de la première impression. Sam Ahmad, il y a la notoriété qu'il faut. Mais la première impression à la Ville de Québec ne nous l'avait jamais donnée. En tant que potentiel maire de la Ville de Québec,
en effet.
Il aurait fallu qu'il arrive avec effectivement quelque chose de concret. Avec des propositions claires, avec des réponses aguerries sur les enjeux principaux. Là, on était dans l'attente, dans la latence, dans le manque de clarté, quelque chose de nébuleux. T'as perdu ton momentum.
En effet.
Je t'amène, là, j'allais dire le plus beau, je t'amène la plus belle fille, Jeff, de la ville, là, au complet devant toi, puis elle dit, Jeff, je veux conquérir ton cœur.
Mais elle s'intéresse pas à moi.
Elle a rien à dire.
C'est ça.
Elle est magnifique.
Oui, oui, oui.
Elle a une notoriété, les gens l'acclament. Mais tu l'as devant toi, tu lui poses des questions, puis elle n'a rien à dire. Puis elle dit pas pourquoi elle n'a rien à dire. Mm-hmm. C'est parce qu'elle n'a rien concrètement à te proposer ou à te répondre, puis elle n'a rien vécu, ou c'est parce qu'elle te le garde. On n'avait même pas cette réponse-là.
Non, c'est ça, t'as raison.
Ça a été une entrée dans l'arène très coït interrompue.
Ah, vraiment.
Et ça a mené justement à donner plus de place à Bruno Marchand, qui lui était déjà à la mairie, donc connaît les dossiers, puis il avance. Donc,
t'es déjà prêt.
On a eu une proposition de perception de quelqu'un qui est prêt, qui a l'attelage entre ses mains. Et ça vient qu'à faire oublier aux gens que ce qu'il y avait entre ses mains, puis l'attelage qu'il y avait, peut-être ne fait pas l'unanimité, mais avec quelque chose.
Ouais.
Fait qu'on est vraiment dans ces relents-là.
En effet. Et dans le cas de Stéphane Lachance, la problématique de Respect citoyen, c'est qu'on est tellement anti-tramway. Ça a commencé, le mouvement Respect citoyen, avec Tramway, non merci, no way, qui en passant est un site de médias sociaux pas très, très, pas très, très recommandable de par les propos qu'il y avait là-dessus. On est tellement obsédé par qu'il n'y ait pas de tramway qu'au lieu de dire « Hey, je vais faire un premier pas, je vais devenir chef de l'opposition officielle, je vais apprendre comment la machine fonctionne, après ça, je pourrais viser la mairie », bien là, on a visé le coup de circuit avec Sam Ahmad et on vient complètement de se planter.
Il semblait, pour Stéphane Lachance, avoir un certain déficit de notoriété. Beaucoup de gens à Québec qui ne connaissaient pas l'homme, même s'il était très implanté en politique, puis est arrivé aussi avec une grande frustration.
Oui.
C'est encore la première image en politique. Ouais. Si tu te présentes en étant fâché, ce que Stéphane Lachance a fait, puis après, il s'est un peu tranquillisé sur le ton. Il a essayé de changer, d'être plus, comment dire, attachant. Mais tout le monde se rappelle de la première impression.
En effet, t'as entièrement raison. Est-ce que Bruno Marchand demande une enquête du directeur général des élections?
Oui, forcément. Là, du côté de Bruno Marchand, on a évité un peu de commenter si les deux avaient commis des actes illégaux ou pas. On se tourne du côté de DGEQ pour le faire.
Présentement, là, c'est bien dur de faire la part des choses. Ça va prendre une enquête du DGEQ. Je peux pas vous dire qui est coupable, s'ils le sont, s'ils le sont pas. Les allégations sont sérieuses et l'enjeu est déterminant. Est déterminant. La Ville de Québec, on s'est toujours sauvé. On a toujours fait bande à part lorsque ça allait mal dans certaines municipalités, Laval, Montréal, par des maires et des conseillers, des conseillères qui étaient dans la droiture et qui n'étaient pas dans ce... dans ces constats ou ces risques-là d'inéligibilité. Mais, alors, quand je vous dis que c'est malheureux, c'est que je pense pas que les gens de Québec, aujourd'hui, sont heureux de ça. Là. Alors, le reste, je peux pas faire l'éclairage là-dessus. Je peux pas dire qui est coupable, qui l'est pas. J'ai pas cette expertise-là.
Quand je te parle, Jeff, d'élever son discours en politique, je trouve que Bruno Marchand l'a fait aujourd'hui. Par moment, quand Lachance a monté dans les sondages, il avait fait une sortie le lendemain qui critiquait Lachance surtout.
Oui, puis je me souviens, on l'avait trouvé particulière.
Exactement. Aujourd'hui, Bruno Marchand n'est pas sorti dans des attaques personnelles, n'est pas sorti en criant au scandale en disant que les candidats devaient se retirer. Aujourd'hui, Bruno Marchand est sorti en tant que maire sortant, en tant que représentant de la population de Québec, puis en tant que représentant de ses électeurs en disant « Ce qu'on voit présentement, c'est désolant. Ce qu'on voit présentement, c'est triste. Puis c'est pas le type de course électorale que je veux. » Parce qu'il faut le rappeler, là, ce qui se passe présentement, c'est à avantage, Bruno Marchand. C'est à son avantage qui se passe. Puis pourtant, il prend le temps de dire que ben ça n'a pas d'allure.
Ouais. Tu sais, il n'y a pas un adversaire à son niveau actuellement qui a ses propositions. Puis je veux dire, il y avait le profil, là. M. Hamad avait le profil, il aurait pu. En ce moment, il faut constater qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas la feuille complète devant lui, ce qui fait en sorte que c'est sûr que Bruno Marchand sort vainqueur. Si on avait un adversaire qui proposait autant que lui, qui était sur la place publique d'une manière qui n'est pas négative, qui n'est pas en chicane, et certainement avec des choses concrètes à dire, mais là, on pourrait aller calibrer le niveau puis voir qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. Puis probablement que les facettes qui étaient déplorées par le 52% par exemple en de effet, taux d'adhésion pour Bruno Marchand reviendraient dans l'actualité.
T'as entièrement raison. Élevons le discours. Soyons fiers de nos maires et mairesses qui ont passé justement avant le 4 ans de Bruno Marchand, c'est-à-dire Jean-Paul Lallier, la mairesse Boucher, Régis Labombe, qui n'ont jamais justement embarqué dans ces petites politiques-là. Et on va souhaiter une fin de campagne électorale beaucoup mieux. Mathias Turcotte, t'es un as. Merci beaucoup pour cette présence à la conférence de presse de Bruno Marchand.
Ça fait plaisir. Passez une belle journée tout le monde.
Merci toi aussi. Bon week-end. Après la pause, c'est Irénée Rutema, un nouveau chroniqueur en politique municipale que vous adorez. Vous n'avez que des bons commentaires pour lui. Il vient s'installer. On va revenir entre autres sur notre entrevue avec Bruno Marchand d'hier. Je vais avoir là justement les commentaires d'Irénée par rapport à celle-ci, notamment sur le fait que, hey, c'est l'élection 2021 qui a décidé du tramway. C'est-tu vrai ça, Irénée, ou non? On va lui poser la question après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.
Jusqu'à 14h.
Excellent week-end pour le faire. Quoi? L'entretien de votre voiture. Puis là, vous dites, ouais, ben parfait, il n'y a pas de problème, mais comment on fait ça? Ben c'est simple, tu t'en vas chez Pièces d'Auto Économique. Pourquoi? Pour les meilleurs prix, pour les meilleures marques, pour toutes les explications qui viennent avec. Pièces d'Auto Économique, c'est leader au Québec, dans la province, pour toutes les pièces d'auto et les accessoires. C'est un gars qui a parti ça, Martin Boulet, que j'aime de tout mon cœur parce que le gars est encore dans l'entreprise en plus. Il travaille de façon acharnée pour vous offrir le meilleur. Je suis allée voir l'entrepôt dernièrement. C'est pas un entrepôt, là. Je veux dire, c'est 45 Costco qui sont alignés. Puis, ils travaillent pour que ce soit rangé de manière hyper efficace pour vous servir le plus rapidement possible, qu'on retrouve tout ce que vous avez besoin en termes de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs et etc. C'est 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs. Si vous ne trouvez pas votre compte là, vous n'allez pas trouver votre compte ben dans vie. Puis on a 9 magasins partout au Québec, un site transactionnel, c'est simple et efficace. Puis là, on a décidé qu'on était bien généreux avec vous, les gens de Boulevard, parce que on a décidé que jusqu'au 31 octobre, vous économisez encore plus chez Pièces d'Auto Économique. Ça veut dire 10 % de rabais sur les disques de frein de première qualité, les Brake Max, à forte teneur en carbone pour un freinage tout en douceur, et 15 % de rabais sur les plaquettes de frein Bosch et 15 % sur les essuie-glaces Bosch aussi, Clear Advantage. Faut pas que t'attendes la dernière minute. Pourquoi? Parce que tu vas être prêt, tu vas être relax. Ton dimanche, ça va être pour le football. Ta fin de semaine, ça va être pour les amis puis la famille. Et c'est maintenant que tu le fais avec le rabais jusqu'au 31 octobre. Pièces d'auto économiques, les grandes marques, les pièces neuves, garanties, les meilleurs prix, dans 9 succursales, partout au Québec et sur le site de piéceéconomique.com.
Pour voter aux élections municipales.
Excellent week-end pour le faire. Quoi? L'entretien de votre voiture. Puis là, vous dites, ouais, ben parfait, il n'y a pas de problème, mais comment on fait ça? Ben c'est simple, tu t'en vas chez Pièces d'Auto Économique. Pourquoi? Pour les meilleurs prix, pour les meilleures marques, pour toutes les explications qui viennent avec. Pièces d'Auto Économique, c'est leader au Québec, dans la province, pour toutes les pièces d'auto et les accessoires. C'est un gars qui a parti ça, Martin Boulet, que j'aime de tout mon cœur parce que le gars est encore dans l'entreprise en plus. Il travaille de façon acharnée pour vous offrir le meilleur. Je suis allée voir l'entrepôt dernièrement. C'est pas un entrepôt, là. Je veux dire, c'est 45 Costco qui sont alignés. Puis, ils travaillent pour que ce soit rangé de manière hyper efficace pour vous servir le plus rapidement possible, qu'on retrouve tout ce que vous avez besoin en termes de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs et etc. C'est 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs. Si vous ne trouvez pas votre compte là, vous n'allez pas trouver votre compte ben dans vie. Puis on a 9 magasins partout au Québec, un site transactionnel, c'est simple et efficace. Puis là, on a décidé qu'on était bien généreux avec vous, les gens de Boulevard, parce que on a décidé que jusqu'au 31 octobre, vous économisez encore plus chez Pièces d'Auto Économique. Ça veut dire 10 % de rabais sur les disques de frein de première qualité, les Brake Max, à forte teneur en carbone pour un freinage tout en douceur, et 15 % de rabais sur les plaquettes de frein Bosch et 15 % sur les essuie-glaces Bosch aussi, Clear Advantage. Faut pas que t'attendes la dernière minute. Pourquoi? Parce que tu vas être prêt, tu vas être relax. Ton dimanche, ça va être pour le football. Ta fin de semaine, ça va être pour les amis puis la famille. Et c'est maintenant que tu le fais avec le rabais jusqu'au 31 octobre. Pièces d'auto économiques, les grandes marques, les pièces neuves garanties, les meilleurs prix, dans 9 succursales partout au Québec et sur le site de pièceséconomique.com.
Pour voter aux élections municipales, cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour peut faire ça.
Marceau le soir, 8h.
Boulevard 102.1.
Maintenant 100% parler en semaine.
100% talk.
Boulevard 102.1.
Le midi. On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Il reste un peu de temps, Suzuki!
Guerrero drives the ball the other way. Canzone's going back. He's at the wall. It's gone! Vlad Jr. strikes again with his fifth home run of the postseason. Toronto takes the run right back.
Cole Caulfield, Pascal, pour un deuxième match de suite en prolongation, fait gagner le Canadien de Montréal. Victoire de 3-2 hier contre les Prédateurs de Nashville. 4 victoires en 5 matchs en ce début de saison pour le Canadien. 4 victoires consécutives. Il joue samedi contre les Rangers à domicile. Bref, la planète hockey est de retour à Montréal puis dans mon salon avec mes gars qui ont leur chandail. Plus capable déjà!
Ça n'a pas vraiment arrêté, mais là, il y a tout pour vous alimenter jusqu'en mai prochain.
Exactement. L'autre extrait que tu as entendu, c'est Vladimir Guerrero Jr. qui a frappé son 5e circuit des séries. Les Jays perdaient 2-0 dans la série face à Seattle. C'est maintenant 2-2 grâce à une victoire de 8-2. Ce soir, 18h08, le 5e match de cette série. Le 6e match aura lieu dimanche soir à Toronto. Je peux te le dire, je fais une petite sieste après-midi, puis après ça, je m'installe devant le baseball.
Hey, t'as-tu... Petite parenthèse de hockey, moi, les affaires que je regarde qui me font bien rire, puis c'est souvent les vedettes qui sont attitrées à une équipe une autre. Will Ferrell, hier, sur le banc des Kings de Los Angeles, avec sa grande couronne. Il commence à y avoir quelque chose de très marketing avec les... Bon, vous me dites, ça fait des années, mais là... Il y a du Hollywood là, dans
ben,
tout ça.
Oui,
il était là puis il était fier à pète.
Va falloir, c'est toi qui m'as parlé de ça. Je pense que je vais regarder voir les personnalités publiques qui sont associées à des équipes. Faudrait faire ça.
Parce que
ça va être drôle, ça.
L'Arabie Saoudite, tout ça, là, qui veulent aller chercher les meilleurs joueurs puis nous les voler. Fait que nous autres, on va essayer de marchandiser de façon hollywoodienne.
On va le garder chez nous.
Oui.
C'est une très bonne idée. Puis parlant de sport, là, je regarde la météo, Pascal. 18 degrés dimanche. Il se passe quoi dimanche à cette belle température-là?
Tellement contente, là. Tellement contente parce que c'est, une super belle journée. C'est un dimanche d'automne. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Le football. Puis je m'en suis privée les dernières semaines. Fait qu'on a décidé de faire ça en grand avec Boulevard 102.1. C'est le Rouge et Or qui affronte les Carabins de Montréal.
Oh, yeah!
C'est au Stade TELUS, mais c'est dimanche, 19 octobre, qui dit football, dit tailgate.
Oui!
Dès 9h30, vous avez le droit de prendre une bière. Ça, c'est nous qui donne la prescription. Après, vous faites ce que vous voulez.
Fun.
Si c'est un Perrier, c'est bien correct. On ne juge pas les gens qui sont plates.
Non, hein? C'est ça, exactement.
Je me dépasse,
on vous juge pas, mais moi, je vais avoir une petite canette d'un, moi, je vous le dis.
Tailgate, c'est l'avant-match Boulevard. C'est présenté par Laurier Québec, nos fiers partenaires depuis longtemps là-dedans. Venez voir l'équipe, on va être là. On va être tous là. Donc, prix à gagner, des cartes cadeaux Laurier Québec, du gros fun en gang. Vous allez pouvoir le faire aussi via votre appareil mobile avec l'app Boulevard, soit gagner des concours et tout ça. Donc, mettez votre charge dans votre batterie, là. Puis c'est jusqu'à 500 $ par Laurier Québec à la fin de la saison que vous allez pouvoir remporter également. Pour acheter vos billets, c'est au rougeetor.ulaval.ca. Ça, c'est s'il en reste.
Oui, il y a déjà 21 000 billets de vendus, Pascal CV. Le party! À Québec, ça se passe dimanche et Boulevard, on va être là dans le
tailgate dès 9h30 sous notre belle tente de Boulevard 102.1. À 13h22, achetez vos billets maintenant. Merci.
Wow, c'est magnifique. Simon qui nous écrit, j'aime ça quand on a des points de vue différents. Honnêtement, pour moi, Stéphane Lachance a réussi son coup. Il fait parler de lui, que ce soit en bien ou en mal, et il a réussi à se dissocier clairement de Sam Ahmad. Les États-Unis ont élu un président malgré des allégations d'agression sexuelle et de fraude économique, et cela n'a pas changé l'opinion des électeurs. joueur. Donc, merci Simon pour ton commentaire. J'ai lu le commentaire de Simon parce qu'on a justement notre chroniqueur politique, Irénée Rutema, qui est en studio avec nous. Et Irénée, tu veux me parler d'amnésie politique. Où est-ce que tu veux aller avec ça, mon ami?
Écoutez, cette semaine-là, c'est vraiment la semaine de l'amnésie parce que quand on parle du désamour entre M. Hamad et M. Ouais. Lachance, un divorce avant le mariage, là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Alors, ce matin, j'ai lu donc Valérie Gaudreau dans le Soleil, qu'on salue.
Oui, qui fait des excellents portraits de chacun des candidats à la mairie. Ça sera Bruno Marchand demain, ça va terminer la lignée.
Parfait, excellent. Donc, en lisant le texte, je me suis souvenu que M. Hamad, c'est le candidat quand j'étais mm-hmm. ministre. Et là, j'ai constaté qu'il a dit qu'il était ministre responsable de la capitale nationale durant l'inauguration de la première phase. Alors,
la phase 1 de la promenade Samuel de Champlain.
Le 24 juin 2008.
Oui, pour les fêtes du 400e.
Et c'était la fête aussi de M. Jean Charest le 24 oui. juin. Donc, on ne peut pas l'oublier si on aime la politique.
Mais non!
Bref. Alors, qui était responsable de cette...
C'est Sam Hamad.
Non!
Non!
Le 24 juin 2008,
ouais.
c'était Philippe Couillard.
Qui était ministre de la capitale nationale.
Responsable de la capitale nationale. Le 25, si ma mémoire est bonne, il a démissionné.
Ouais.
Et c'est Jean Charest qui s'est autonommé ministre responsable de la capitale nationale. Et M. Hamad, je pense qu'il a été nommé ministre responsable de la capitale nationale en décembre. J'oublie la date.
Donc, Sam Hamad s'est attribué le titre de ministre de la capitale nationale alors qu'il ne l'était pas.
À l'inauguration de la phase 1.
Intéressant.
Donc, je le dis parce que, donc, avec la chance, M. Ouais. Hamad, mais qui dit vrai, qui ne dit pas vrai, mm-hmm. Mon représentant a dit ça, l'autre représentant a dit ça. Donc, nous sommes dans un bordel politique. Et la mémoire aujourd'hui, en tout cas, elle a mm-hmm. fait des fois à M. Hamad. Et je m'excuse de le dire, là, mais sans ouais. campagne... ne va pas très bien. Là.
Non, exactement. Puis, c'était pas de bon augure d'entrer justement dans des tractations comme ça avec respect citoyen. Mm-hmm. T'en penses quoi, justement? On a parlé beaucoup là, de cette fameuse chicane, du fait que je t'ai offert de quoi, tu ouais. m'as offert de quoi, c'est qui le moins pire? Bon, t'es comme deux enfants à la maternelle. Mais sa maman n'aurait jamais dû aller s'asseoir avec respect citoyen.
Son représentant.
Son représentant n'aurait jamais dû aller ouais. s'asseoir là.
At the end of the day, c'est lui qui est responsable.
C'est ça.
De sa campagne électorale. C'est lui le chef de leadership.
Je veux dire, tu prends Sam Hamad, puis là, tu m'as parlé d'amnésie politique, oui. puis je suis d'accord avec toi, mais tu prends le pedigree de Sam Hamad versus le pedigree de Stéphane Lachance, puis il y avait une bonne chronique de Karine Gagnon dans le Journal de Québec là-dessus mercredi.
Elle a été mortelle, ça.
Oui, exactement. Mais Sam Hamad n'a pas allé s'asseoir avec Stéphane Lachance. Puis là, je ne dis pas ça pour réduire Stéphane Lachance, comprenez-moi.
Non, pas du tout.
C'est un citoyen honnête qui a parti son parti politique. Oui. Qui va avec sa vision des choses et ça rejoint beaucoup de gens.
Et on sait où il loge. Là.
On sait où il loge. J'ai énormément de respect pour Stéphane Lachance. Mais sa maman n'a pas d'affaire à aller s'asseoir là.
Mais je ne sais pas qui entoure M. Hamad là, parce que depuis le début de sa campagne, mm-hmm. il n'a pas eu une bonne journée.
C'est vrai.
Ça ne va pas bien. Alors, il s'emmagasine une bonne journée, je pense. Donc, c'est pour
T'as
ça
raison.
Qu'il tire à gauche, il tire à droite, en avant, en arrière. Et mon rêve, là, ce serait d'être dans son war room. Voir comment...
Moi aussi, comment...
Qui dit quoi?
Ben
avec,
oui.
Mais avec aussi le en arrière, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que la personne qui le conseille a fait dans la vie. Je veux chercher un peu, Puis on est capable d'avoir des noms, mais je suis pas sûre de comprendre si c'est pas partagé. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui font des choix, c'est pas unidirectionnel.
En tout cas, son représentant, lors de la rencontre mm-hmm. avec Respect Québec,
oui.
Respect Citoyen,
Respect
pardonnez-moi,
citoyen.
Il s'appelle Benoît Savard.
Oui.
Mais lui a été impliqué dans le financement du Parti libéral il y a quelques années.
OK.
Donc, j'ai l'impression, ça c'est ce que je pense.
On est avec la vieille garde.
Oui. Donc, ce sont les gens qui mm-hmm. ne sont pas encore arrivés en ouais. 2025. Ils font une campagne comme dans le passé, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025.
C'est ça.
Et on n'est plus dans le passé. Et c'est pour ça que je suis toujours surpris quand M. Hamad dit « quand j'étais ». Mais là, nous sommes aujourd'hui.
Oui.
La campagne va mal. Et ça fait une semaine perdue.
Ah oui, une semaine perdue. Dans une campagne où, on le rappelle, Sam Ahmad est en retard de 11 points selon le dernier sondage de Bruno Marchand. Fait que tu peux pas te permettre de perdre une semaine comme il l'a fait. Hey, hier, Bruno Marchand est venu en onde.
Oui.
Et,
t'as l'air d'avoir écouté.
Ouais, ouais, oui, René, écoutez. On a fait bien des blagues sur le magnétisme. J'ai tassé Antonine puis Pascal parce que j'ai dit, soyez pas trop attirés par Bruno Marchand. T'en penses quoi de cette affaire-là du magnétisme?
Écoute, le magnétisme, là, c'est le mot de la semaine et peut-être de la campagne.
Ah oui, pourquoi?
Écoute, je vous ai écouté hier, là, c'était magnétisant, je dirais, là, vous écoutez. Et en parlant de ce magnétisme-là, et moi, j'aime tellement la politique, des fois, je rêve pendant la nuit à la politique.
OK.
Et il y a une semaine...
Ça, c'est une bibitte que j'aime.
Ouais. Exactement, moi aussi,
là. Il y a
là.
Une semaine, je dormais tranquillement, j'avais peut-être bu quelques verres, et j'ai rêvé que M. Marchand... je l'avais rencontré dans un restaurant.
Ouais.
Il m'avait invité à sa table. Et qui était à sa table?
Qui?
Monique Néron.
Monique Néron?
Elle dit, Monique Néron, je te présente Irénée, c'est un chroniqueur politique. Là, je me suis dit, hé, hey, tabarouette, c'est quand même, j'aime trop la politique. Bref, j'ai été magnétisé dans mon rêve. Là.
Par Bruno Marchand, toi-même, t'as été magnétisé. Mais est-ce que justement, puis honnêtement... je lui donne à Bruno Marchand. Oui. T'sais, hier, il est en entrevue. Oui. Il a répondu aux questions. Oui. Il le fait de la bonne façon. Oui. Il y en a certains qui trouvent qu'un ton arrogant. Oui, à l'occasion, il l'a, mais il est quand même un bon communicateur. Ce magnétisme-là, il donne une couple de pourcentage de plus. Je me trompe-tu?
Pas du tout. Puis toi, on l'a vu souvent au début de sa mairie, là, quand elle est devenue maire. Il était plus stressé. Mm-hmm. Quand Mme Guilbault lui a enlevé le dossier de tramway, il était plus stressé. Mais depuis le début de la campagne, alors donc je vais jaser un peu plus, hein, mais depuis qu'il est en amour, il est plus calme.
Oui, c'est vrai.
Il est... Même dans les débats, je l'ai vu dernièrement, j'ai dit, M. Marchand, est-ce que vous aimez débattre?
Ouais. OK, je m'excuse, je fais une parenthèse,
vas-y.
Mais
vas-y.
Moi, ça me fascine. Puis on le remarque souvent chez des gens autour de nous. Là.
Ben
mais
oui.
Puis je m'excuse à Monique Néron, ex-collègue et tout ça. Puis j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour elle. Mm-hmm. Mais c'est une femme très humaine. Ce que vous voyez et entendez de Monique Néron, c'est vraiment ce qu'elle est dans la vie. Puis je me demande si ça humanise pas M. Marchand.
C'est clair.
Il est arrivé... politique, avec cette aura de bienfaisant, d'homme qui a travaillé beaucoup dans tout ce qui est...
Centraille,
la philanthropie,
tout ça.
Alors, il est arrivé avec cette aura très calme et très appréciable face à une ère de Régis Labeaume qui se terminait, où il était tanné de la politique, aigri, fâché, enragé, etc. Et ça, ça a beaucoup aidé à son élection. Par la suite, je pense que la politique a donné une bonne vague, une bonne séquence de piscine à vague à M. Marchand, puis là, il se faisait confronter, puis il n'était pas juste aimé. Là.
Non, il est devenu même fâché dans des points de presse.
Oui, puis là, il y a des petits traits narcissiques parfois, M. Marchand, il me reprochera de l'avoir adressé.
Puis souviens-toi, on disait, ben coudonc, as-tu réélu Régis Labeaume dans les deux premières années de Bruno Marchand?
Et on est entré dans une politique de justification. Alors, il n'y avait rien qui était mal fait.
C'est bien dit, ça.
Et tout était à comprendre pour le citoyen. Et ça aussi, ça a été pointé du doigt en disant, M. Marchand, on ne peut pas faire de la politique comme ça. On a l'impression d'être des cons. Là, il est en campagne électorale.
Oui.
Ça s'est beaucoup ajusté.
Charmeur.
On est revenu au charisme de Bruno Marchand. Et ça fonctionne. Alors, peut-être qu'il s'appuie là-dessus. Ouais. S'il est élu... Qu'est-ce qui reviendra? Mm-hmm. Est-ce qu'on va avoir appris de ça? Est-ce que Monique Néron va l'avoir adouci parce que ça paraît stupide, mais c'est un pion
ça
important?
Non, ça ne l'est pas. Et Manon, d'ailleurs, qui écrit « Je déteste Marchand, mais il parle tellement bien qu'il réussit presque à m'avoir. »
Il a la qualité communicationnelle de Geneviève Guilbeault.
Ben oui, c'est vrai, tu as raison.
Écoutez,
c'est vrai que Geneviève Guilbeault a réussi toujours à m'avoir. Là.
On s'en mentira pas, là. Monsieur Marchand, il est beau, là. Et en plus, il est sportif. Moi, je le vois souvent dans le Vieux-Québec, dans mon camp. Il est toujours en train de courir.
Ouais.
Il est toujours en train de courir. Et quand on le rencontre en privé, c'est vrai qu'il a du charisme. Et je veux comparer ça à M. Trudeau. Justin Trudeau, en personne...
C'est une bonne comparaison.
C'est une star, là.
Katy Perry, trip de...
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de choses, mais...
D'ailleurs, t'as-tu vu son Frenchie sur le bateau de Katy Perry, là?
Oui,
t'as pas manqué ça, même si c'était au Kilimanjaro,
pas tant. Non. Donc,
Monsieur
Marchand... Oui, il y a du charisme. Il faut lui donner ça.
Et dans la vie, les gens l'utilisent de deux manières. D'une façon... positive ou d'une façon négative. Il y a de grands leaders qui ont fait de bien mauvaises choses, qui avaient un charisme exceptionnel. qu'est-ce que Bruno Marchand va faire avec son charisme.
Oui, et je pense qu'en plus, c'est... Là, je pense que je veux me faire détester parce qu'on parle en bien de Marchand.
Oh, mais ça, c'est correct. Assumé. Ça fait partie de la vie.
C'est assumé. Et je le côtoie quand même assez souvent. On l'a vu souvent dans les conférences de presse. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même gêné.
Ouais.
Donc, il faut que les gens vont le voir. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué. Quand Régis Sabon arrivait dans une conférence de presse, il ne saluait personne. Mais M. Marchand
salue
tout le monde, les caméramans, le staff, les techniciens. Il prend la peine de saluer tout le monde.
Écoute, ses attachés de presse, ça me suit sur Facebook et ils me posent toujours des questions personnelles.
Oui.
ça, là, les gars, là, ça, c'est de la politique. Hein?
Oui, c'est de la politique.
Voulez-vous que je vous enjôle parce que je peux en sortir
non,
des
non,
techniques?
Non, c'est de la politique. Allez, exactement.
Vas-y.
Irénée, je termine avec ce qui aurait dû être. Ben, écoute, Irénée.
On peut continuer puis péter le show de gravel.
Je le sais, c'est une bonne idée. Non, on a une candidate pour les élections de Saint-Augustin qui va suivre par la suite, là, par la suite de ta. Ton excellent
Monsieur chronique. Ahmad habite à Saint-Augustin, en passant.
Ouais. là, t'es en train de me déconcentrer.
Oui.
Réponse de Bruno Marchand hier, quand je lui ai demandé pourquoi vous ne faites pas un référendum sur le tramway.
Pas eu de référendum. Il y a eu une consultation qui s'appelle une élection. Là. À la dernière élection, en 2021, il y avait 5 partis, 4 partis pro-tramway qui ont ramassé la majorité des votes. Les gens, s'ils avaient voté pour Québec 21, les gens de Québec 21 proposaient de ne pas faire de tramway et ils ont eu une minorité de vote. Alors, c'est une forme de consultation. Oubliez pas là, que faire un référendum...
T'en penses quoi de ça, que l'élection 2021 était le référendum sur le tramway? Parce que, tu sais, je fais juste lire le commentaire d'un auditeur ou d'une auditrice qui dit « Hey, ça fait 5 ans qu'on demande un référendum, on n'en a pas eu. Mm-hmm. Fait que moi, c'est pour ça que je vais voter Respect citoyen. »
Écoutez, on va être pragmatique, là, et on va mettre la politique à côté. 2021, les gens ont voté pour le tramway, là, d'après l'élection. Mm-hmm. Et maintenant, les travaux sont engagés. On ne peut pas reculer. Monsieur Julien l'a dit il y a quelques semaines en répondant à Monsieur Ahmad et à Monsieur Lachance. On ne peut plus reculer. C'est impossible. Alors, on règle cette élection avec le tramway fini, terminé, et on passe à autre chose parce que là, un, moi, je suis fatigué. Deux, moi, je me déplace en transport en commun et je peux vous dire que quand tu prends le 800 et le 801, tu réalises qu'on a besoin d'un transport structurant. Alors, arrêtons de chialer et passons à autre chose parce que là, on a d'autres dossiers prioritaires. Là.
Irénée Rutema, vous pouvez l'entendre avec nous à chaque vendredi pour faire le bilan de la politique municipale en pleine campagne électorale. C'est toujours très intéressant. Merci, mon ami, pour ta présence. Après la pause, vous l'avez demandé. Vous nous avez dit, Pascal, pendant ton absence, là, les auditeurs nous ont dit, parlez donc d'Ancienne Lorette puis de Saint-Augustin.
Oui, parce que honnêtement, c'est un gros pan de la ville.
Exactement.
Mais qui n'a rien à voir avec nos élections à nous.
En plein ça, mais on répond justement à ce besoin des auditeurs parce que c'est Pascal Bertrand, candidate à la mairie de Saint-Augustin, qui sera avec nous en studio après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14. Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
13h42 exactement, le retour de Gravel qui va suivre avec Denis, Véro et Audrey ce week-end. C'est évidemment la programmation musicale avec le Garage à Dan qui commence à 18h. Dan Caron qui est là samedi, Colosse dimanche de 10 à 15. Audrey Pinchot avec le Rock and Chill qui est à la barre de 7h à 10h les samedis et dimanches matin. Et c'est le rack à Matt avec Matt Marcotte de 15h à 17h. Pascal, avant qu'on parle avec Pascal Bertrand, candidate à la mairie de Saint-Augustin, je pense qu'il y a une tentative de meurtre à Saint-Nicolas. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, on a parlé de ça tôt ce matin parce qu'à 4h du matin, il y a des résidents de Saint-Nicolas qui ont eu vraiment un sommeil coupé sur la rue de l'Estran. C'est dans un secteur qui est bardé de maisons assez haut de gamme. Là. Vous voyez les devantures de maisons, puis vous dites, ça s'est passé là, c'est moins de 5 coups de feu, donc plus qu'un, moi je préférerais dire, qui ont été entendus auprès de voisins qui ont été réveillés par le bruit. On a tiré sur la façade d'une résidence privée, donc détonation forte à 4h du matin. Et là, on a constaté les dommages. On voit les projectiles qui ont brisé porte d'entrée, fenêtre, ça a été fracassé. Pour l'instant, on considère ça comme une tentative de meurtre du côté de la police de Lévis. C'est pas rien. Les suspects, parce qu'on pense qu'il y en a plusieurs, sont en fuite. Périmètre de sécurité qui a été mis en place. Je dirais, Jeff, en regardant les textos, 81 418-971-1021, qu'on n'était pas là-dedans dans l'émission, mais ça se jase quand même. C'est vraiment, je pense, l'événement de la journée là, qui fait réagir, parce qu'on se dit, voyons, c'est encore une erreur sur la personne. Il y a des résidents qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Habituellement, c'est un quartier, somme toute, assez calme. Là, on est chamboulé. On veut comprendre. On veut savoir si l'hypothèse va s'avérer exacte, comme quoi on s'est trompé sur la personne. Mais encore là, ça inquiète. Qu'on se soit trompé ou pas,
exactement.
Qu'est-ce qui se passe du côté de Lévis? On a une enquête en cours.
Clairement.
Et pendant qu'on parle, Volodymyr Zelensky, qui tente de convaincre Donald Trump, on sait que c'est ça la position. La position de pouvoir est auprès de Donald Trump. On est à la Maison-Blanche en ce moment, en direct, donc on est prêt à discuter. On dit peu importe comment ça va se faire, on tente de trouver une façon de délier l'éventuelle livraison de missiles à longue portée américains. On sait que les discussions sont plus faciles du côté de Donald Trump et de Vladimir Poutine, qui est l'ennemi par excellence de Volodymyr Zelensky du côté de l'Ukraine. C'est particulier ce qui se passe. Donald Trump, rappelez-vous, avait brutalement parlé de son homologue ukrainien en disant qu'il n'a pas les cartes en main pour gérer la situation. On sait que ça ne se fait pas nécessairement dans un climat très amical.
Non, exactement, c'était en février dernier. On a le bonheur d'avoir avec nous Pascale Bertrand, les candidates à la mairie de Saint-Augustin. Pascale, comment vas-tu?
Ça va super bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation aussi, contente d'être avec vous.
Ça fait plaisir. Pascale, tu es urbaniste, je crois, de profession. Oui. Pourquoi te lancer à la mairie de Saint-Augustin?
Parce qu'on a une super belle municipalité. C'est super important là, d'en prendre grand soin. Moi, ben, c'est ça. Je fais une carrière au municipal comme urbaniste, comme gestionnaire directrice de services d'urbanisme là, depuis 12-13 ans maintenant, puis toujours pour d'autres municipalités. Puis là, ben, j'habite Saint-Augustin depuis 11 ans, puis je pense que ça vaut la peine de venir contribuer. Là. Je sens que j'ai vraiment quelque chose à offrir à mes citoyens pour amener l'écoute, amener la bonne planification, la bonne vision urbaine plus loin.
Qu'est-ce que tu ferais différent, justement, du maire Sylvain Junot? Parce que de l'extérieur, nous, à Québec, on se dit, non, le maire Junot, il est là à vie, crème. Lui, les taxes n'augmentent pas à Saint-Augustin. Il est bien assis confortablement dans son siège. Donc, qu'est-ce que tu apporterais de différent?
Oui. C'est vrai que les taxes n'ont pas augmenté. L'argent rentre, là. Hein? À Saint-Augustin, il faut comprendre qu'il y a une très haute richesse foncière. Donc, avec un taux de taxation qui est quand même assez élevé, même si le maire sortant dit qu'il est moins élevé que dans la région de Québec, bien, ça fait quand même en sorte qu'un logement moyen à Saint-Augustin coûte beaucoup plus cher en taxes qu'un logement moyen. Donc, une unité de logement, là, quand on compare à l'ancienne Lorette, à Québec, à Saint-Augustin, pour, bref, les mêmes services de base, services de loisirs, services de déneigement, poubelle, ça coûte plus cher de taxes à une famille à Saint-Augustin qu'à une famille à Québec ou à l'ancienne Lorette. Moi, ce que je dis, c'est si on a la possibilité, moi, je crois qu'on a la possibilité de baisser les taxes en finançant les projets d'immobilisation avec des règlements d'emprunt, en contrôlant évidemment la dette. Là, on ne parle pas de revenir à une situation de surendettement, là, loin de là. Par contre, les projets que la ville fait, elle doit avoir les moyens financiers de les supporter et de les supporter avec les bons outils. Donc, je dis, diversifions nos outils, ayons une stratégie de finances publiques qui est équitable et diversifiée et faisons les projets qu'on a les moyens de faire avec des taxes plus basses qu'en ce moment. Et comme j'ai une vision d'urbanisme, ben, je vois des projets à faire, des projets qui rapporteraient, oui, de l'argent, mais aussi des lieux de fréquentation, des activités économiques, là, des services à la population, notamment des services de santé. Entre autres, je pense qu'on devrait s'investir là-dedans puis avoir une clinique de proximité. On a le bassin de population pour l'avoir.
Qu'est-ce qui diffère de la Ville de Québec? Parce que j'ai l'impression que c'est très collé, c'est très semblable. Quand on parle de taxes, de compte de taxes, c'est là aucune différence. Mais qu'est-ce qui vous diffère vraiment dans la gestion de Saint-Augustin, entre autres, par rapport à Québec?
Bien, moi, j'ai travaillé à la ville de Pont-Rouge, à la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon. Puis je trouve que c'est comparable dans le sens qu'on est une communauté qui aimons puis qui avons des services de loisirs, de culture, nos activités sur le territoire de la ville de Saint-Augustin. Il y a beaucoup de citoyens qui ne vont pas à l'extérieur de Saint-Augustin dans une journée quotidienne, là, que les enfants vont à l'école à Saint-Augustin, fréquentent les commerces de Saint-Augustin, il y a beaucoup de télétravail, puis il y a beaucoup de travail aussi à Saint-Augustin comme tel. Donc, je ne suis pas sûre de saisir la question par rapport à la ville de Québec.
On parle
souvent
de Québec pour les prochaines élections,
oui.
Mais il y a une demande forte sur... On peut-tu parler de Saint-Augustin aussi? Oui.
OK.
Comment vous travaillez en collaboration avec la Ville de Québec? Ah. Puis comment vous êtes un peu gaulois aussi là-dedans?
OK. Ben oui, effectivement, le terme gaulois est intéressant. Là. Moi, je trouve qu'on a trop longtemps été perçu comme un mouton noir qui ne veut pas collaborer. Je vois deux choses dans la question. Premièrement, je pense qu'on a clairement une identité propre à Saint-Augustin. Donc là, je ne sais pas si ça fait référence à d'anciennes fusions ou une idée
de
finalement être des gens qui sont... Des citoyens de Québec, mais qui ont une autre ville? Non, je pense pas. Je pense qu'on a la même identité que les gens de Neuville ou que les gens de Pont-Rouge ou que les gens de n'importe où, Shannon, peu importe, sont fiers de leur ville, dans le sens qu'on a nos lieux, nos services, nos écoles qui sont hyper dynamiques, proactives. Maintenant, pour notre positionnement dans l'agglomération de Québec puis dans la communauté métropolitaine de Québec, bien oui, on doit absolument se départir de notre vision puis notre l'attitude de Gaulois. Moi, je pense qu'il y a énormément d'opportunités puis de collaboration positive. Puis il faut aller de l'avant puis complètement tourner la page sur se mettre en porte-à-faux puis tirer profit de les collaborations. Là.
Comment on développe économiquement Saint-Augustin? Parce que si on veut baisser les taxes des citoyens, nécessairement, il va falloir développer le niveau économique. Je sais que le maire Junot le fait beaucoup avec les parcs industriels. Est-ce qu'on continue dans la même veine?
Bien, c'est sûr que moi, j'ai rien contre continuer de développer le parc industriel. Là. Il y a des terrains encore de disponibles. Il y a de la densification industrielle qui peut être faite même à l'intérieur du parc. Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est intéressant. Les entreprises veulent continuer de prospérer. Mm-hmm. Les entreprises veulent venir chez nous, ça va de soi. Maintenant, au niveau commercial, il y a des sites qui ont besoin d'être développés. Il faut regarder des stratégies urbanistiques comme de la mixité. Là. Je pense, en tout cas, moi, j'ai vu des exemples ailleurs, puis ici, sur le Bourgneuf, on en voit, là, de hauteur, de densité résidentielle, que le milieu est capable de supporter en termes de cohabitation, là, puis en termes de trafic aussi, là, de gestion du site et de ses abords. Mais on est capable de densifier commercial et en mixité résidentielle, puis même greffer une garderie ou penser là, de faire vraiment des milieux de vie pour la population sur des terrains qui sont vraiment sous-occupés.
Si vous êtes élu mairesse de Saint-Augustin, c'est notre dernière question. Est-ce que vous allez vous rasseoir avec la Ville de Québec et Ancienne Lorette pour ce qui est de la taxe à l'agglomération ou vous allez continuer dans la même veine de M. Junot qui s'était retiré des discussions?
Pour moi, c'est fini les chicanes. Il faut être en mode collaboration. On a trop à gagner de nos liens avec la Ville de Québec et la grande région. Et ça ne veut pas dire de tout accepter puis de ne pas prendre parti pour, évidemment, notre chez-soi, là. Mais ça veut dire qu'on change complètement de type de gouvernance et d'air en termes de relations là, citoyennes avec nos partenaires régionaux.
Pascal Bertrand, candidate à la mairie de Saint-Augustin pour les élections du 2 novembre prochain. Vous souhaite bon succès dans votre campagne électorale. Puis merci d'être venu nous voir à l'antenne de Boulevard 102.1.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Pascal, c'est va pour le tailgate. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Est-ce que tu te reposes?
Ouais, là, là, je vais être là-dedans, rattraper le décalage et tout
ça.
Puis tu sais, je réagis plus aux effets de la pilule contre la malaria qu'aux effets de l'altitude. Fait que je compte les 3 jours qui me restent pour
c'est ça, exactement.
reposer.
Alors, repose-toi, reviens-nous en forme lundi.
Avec le rattrapage d'actualité.
Exactement, avec le rattrapage de l'actualité. Oui, c'est clair qu'il n'y a pas de doute là-dessus que tu as du rattrapage à faire.
Mais on se voit au tailgate dimanche.
On se voit au tailgate dimanche. C'est clair que je vais être là, 18, on le rappelle, 18 degrés, 21 000 billets de vendus pour le Rouge et Or contre les Carabins de l'Université de Montréal. Le retour de Gravel suit avec Denis Audrey et Véro Garage à Dan par la suite à 18h. Nous, on se reparle lundi à midi dans l'émission On en jase. Pascal CV, profite de ton week-end.
Bon week-end, c'est tout ce que vous méritez.
Yes, salut tout le monde, bye bye. On en jase jusqu'à